Vous écoutez
RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Et 16h01 sur RMC, salut à tous, c'est parti pour 2 heures de live dans l'Intégral Sport jusqu'à 18h avant de laisser la main à Benoît Boutron et Sébastien Piocel pour début de la soirée spéciale Ligue 1 sur RMC, le multiplex de la 37e journée évidemment à suivre à 21h, le titre, la course à l'Europe, le duel pour le maintien, vous ne raterez rien ce soir dès 20h, l'after présenté par Thibaut Jean-Grande avec la Dream Team Foot d'RMC, on sera sur les 10 pelouses avec tous nos commentateurs et puis dès le coup de sifflet final, l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo jusqu'à 1h du matin. Mais on va déjà vous donner toutes les infos dans l'Intégral Sport. Ce sera tout à l'heure avec Coach Courbis. La Formule 1 est à Monaco ce week-end pour l'un des Grands Prix les plus mythiques. Qualification à suivre dans quelques instants. Charles Leclerc va-t-il briller devant son public et briser ainsi l'hégémonie des Red Bull qui ont tout raflé jusque-là? La réponse avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh bien bonjour Flora, rebonjour à tous.
Sans oublier le Tour d'Italie, on s'approche du dénouement. Avant-dernière étape aujourd'hui avec un contre-la-montre. Montre, mais en montagne cette fois-ci, 26 secondes d'avance pour Geraint Thomas sur Primoz Roglic. Tout peut se jouer cet après-midi. Les qualifications donc du Grand Prix de Monaco, c'est parti hein, du côté de la principauté, Jean-Luc, avec évidemment cette question. Alors on a un peu tous les regards quand même tournés vers Charles Leclerc, il est devant son public aujourd'hui. Alors la pole position à Monaco, il connaît. Normalement, de ce côté-là, ça va, c'est après que ça se complique.
Voilà, tu as bien résumé. Écoute, il connaît, il l'a déjà signé à 2 reprises, on le rappelle, en 2021 et 2022, avec sa Ferrari. Donc on imagine le délire que c'était pour lui, qui est monégasque, hein, qui, comme il le dit, évidemment, connaît chaque centimètre ou millimètre même du tracé. Quand il était petit, il allait à l'école, donc on connaît tout ça par cœur. Il connaît même le nom des fourmis, il parle à l'oreille des fourmis. Non, en fait, évidemment que pour lui, en plus, bon, c'est une terre de Ferrari, hein, évidemment, les tifosi. La frontière italienne n'est pas loin, ils sont là, ils envahissent les collines, donc c'était le délire et tu l'as dit, et malheureusement, dans les deux cas, ça ne s'est pas concrétisé par une victoire. Alors, en 2021, c'était de sa faute puisqu'il était sorti lors des qualifications à la fin, on l'avait refait sa voiture et il y avait manifestement un problème. Au moment de se mettre sur la grille, problème mécanique, il doit regagner les stands, il ne prend même pas le départ de ce Grand Prix pour lequel il avait la pole, frustration mais maximale. Et puis ensuite, eh bien, l'an dernier, il était en tête, tout allait bien, il se met à pleuvoir un petit peu, on arrête les monoplaces et là chez Ferrari, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Simon, on se prend les pieds dans le tapis du casino, le tapis rouge, et on se débrouille pour mettre les deux Ferrari derrière les deux Red Bull. C'est quand même très fort. Et ouais. Charles termine 4e, honteux, piteux, foudrage surtout, contre son écurie. Donc effectivement, la passe de 3, bah, ce serait maintenant. Alors on a vu que les Red Bull étaient très très rapides en qualif, hein, en situation de qualif, voilà, puisque même en FP3, ma langue a fourché, parce que on a travaillé surtout sur les qualifications, c'est la particularité de Monaco, c'est tellement important de partir devant pour essayer de faire un bon résultat, même si je l'évoquais tout à l'heure aussi, eh bien Perez qui s'est imposé l'an dernier était parti 3e pour les raisons que j'ai évoquées. Verstappen qui s'est imposé en 2021 était parti 2e. Donc il faut remonter à Hamilton en 2019 et à Ricciardo en 2018 pour trouver des pilotes partis de la pole. Donc c'est pas, et puis il y a le, évidemment,
donc c'est pas automatique, ça veut dire que c'est pas celui qui va signer forcément la pole aujourd'hui qui sera le vainqueur demain.
Non, ça
aide
bien
quelque part quand même, parce que ce serait un peu
ce serait ennuyeux. Et puis bon, a priori la météo est idéale, hein, 25 degrés dans l'air, 42 sur la piste. A priori, pas de menace de pluie pendant le week-end, donc on devrait rester sable comme ça. Donc après, évidemment, celui qui part devant, la monoplace, elle devient très large. Tu sais, de 2 mètres, elle passe à 4 mètres. Et pour dépasser, on a eu là aussi des courses tellement épiques dans le passé, avec les bagarres entre Mansell, Prost, Senna, Piquet. Enfin, je ne vais pas tout évoquer, mais on a vu que pour dépasser à la régulière, c'est très difficile.
C'est compliqué, effectivement. Circuit en ville, on le rappelle, à Monaco, où les dépassements sont donc compliqués. C'est pour ça qu'on évoque avec importance aujourd'hui cette séance de qualification, parce qu'effectivement, généralement, même si on a dit le contraire aujourd'hui, généralement celui qui part en pole position a de grandes chances de s'imposer. On a vu là les Red Bull hein, qui sont partis dans cette Q1, dans cette premier tour de qualification, avec évidemment Max Verstappen et Sergio Perez, et le duel annoncé. La question, c'est de savoir qui va arriver aussi à briser un petit peu cette hégémonie des Red Bull depuis ce début de saison. Hein.
Oui, alors si on reprend les qualifs quand même, on y est parvenu, puisque Max Verstappen est à 2 pôles, c'était à Bahreïn pour le premier Grand Prix et en Australie. Sergio Perez termine lui sur une pole à Miami, dans les rues, enfin pas dans dans les rues, sur le parking du stadium de Miami. Il avait déjà signé la pole en Arabie Saoudite, en ville, enfin, circuit de corniche également, tu vois, petit parallèle, c'est pas du tout la même chose. Et puis, Charles Leclerc, en Azerbaïdjan, était parvenu, alors avec un exploit personnel, hein, parce que manifestement la Ferrari n'a pas la vélocité et l'efficacité de la Red Bull, mais était parvenu à être devant. Donc c'est vrai que tous les regards sont sur Charles, c'est ce que tu évoquais. La logique, c'est que ce soit Verstappen ou Perez, parce que la machine est très performante, mais on peut... Ah, drapeau jaune tout de suite. Alors on est dans la première partie, hein, on le rappelle, c'est trois parties, voilà, Q1, Q2, Q3. La Q1, 18 minutes, on élimine les 5 pilotes les moins rapides. Tiens, c'est une Red Bull. Oula, est-ce qu'on aurait tapé? Non, je ne vois pas de dégâts. Et c'est Sergio Perez qui est à la sortie donc de la voie des stands, juste en travers. Ah, alors là, problème. Alors, Perez, il est cinquième pour le moment, parce que ce que je regarde, c'est qu'il reste un peu plus de 11 minutes.
Drapeau rouge.
Voilà, drapeau rouge. Ben oui, il est en travers de la piste. Hein. Donc voilà, ça c'est Monaco aussi. Ça veut dire qu'on peut avoir des interruptions de séance et que ça veut dire qu'il faut bénéficier également d'un tour clair pour faire un bon tour. Mm-hmm. On peut être gêné par quelqu'un à un endroit ou à un autre. Tous les pilotes, sans exception, s'en sont plein pendant les séances d'essais libres et comme chaque année, parce que volontairement, bien sûr, ou involontairement, et je ne vais pas rappeler le terrible souvenir de Schumacher qui, lorsqu'il avait signé la pole et pour empêcher Alonso de la réaliser, s'était fictivement, entre guillemets, mis dans le rail du côté du virage de la Rascasse. Bref, ça, c'était l'infamie totale à l'époque. Là, ça, je pense que ça n'est pas le cas.
Hein. Ouais, puis on va voir évidemment le chrono hein, de la Q1 du coup et arrêter Jean-Luc, tu l'as dit, tour complet, c'est-à-dire que là, Perez qui est cinquième, il va pouvoir repartir, tu penses, ou pas du tout, du coup?
La machine n'a pas l'air touchée, je ne sais pas ce qui s'est produit. Là,
On n'a pas revu
les images, donc elle a l'air intacte, a priori, cette monoplace, donc est-ce que c'est un problème mécanique?
Il reste dedans, en tout cas, aussi, donc il va sortir.
Oui, les commissaires qui sont toujours très efficaces, hein, on le rappelle, à Monaco, ils sont spécialement entraînés, ils savent qu'ils ont un rôle très important à jouer, alors voilà, on le voit dans la ligne droite, effectivement, des stands, il aborde Sainte-Dévote, il a tapé tout seul à l'extérieur, alors Sainte-Dévote, tu sais qu'il y a une petite église, une petite chapelle à gauche dans le renfoncement. Ben, il pourra aller porter une bougie, là, peut-être ce soir, pour que ça se passe mieux demain.
Ça n'y a pas porté chance, là.
Ouais, on n'avait pas vu l'arrière gauche, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu enregistrer les gars. Alors, Perez, je le signale, parce que ça, c'est important. Ouh là là, oui, le train arrière.
Il a bien abîmé quand même l'arrière de la voiture.
Et
il y a des débris un petit peu sur la piste.
Ouais, je peux te dire que ça y est.
Un moment,
Il a donc totalement hypothéqué ses chances en qualif.
Ah oui, la voie arrière.
Ça va s'arrêter là. Donc, en plus, la boîte de vitesse a dû souffrir, etc. Là, c'est la faute à ne pas commettre pour Sergio Perez. Dans les premières minutes, donc, on n'a même pas 7 minutes de déroulé. Ça, c'est la faute à ne pas commettre. Alors, Hamilton en a commis une petite tout à l'heure également. À la fin de la troisième séance d'essai libre, c'était moins grave. C'était à Mirabeau, tout en haut, juste après le casino, avec un petit snap, comme on dit. C'est-à-dire l'arrière qui part, il essaie de la récupérer et il tire tout droit à un endroit où... Et je lui rends hommage, évidemment, mon ami Patrick Tambay avait tapé, lui, lors du Grand Prix de Monaco 1986. C'était la dernière saison de sa carrière. Il était dans l'équipe américaine de Carl Haas et il était sorti à cet endroit-là. Mais c'était plus grave parce qu'il était monté sur la voiture de Brundle. Il ne s'était pas entendu à l'amorce de Mirabeau. Il avait bien failli, c'était moins protégé qu'aujourd'hui. Passer de l'autre côté du rail de sécurité, heureusement, ça s'était bien terminé. En tout cas, voilà, Perez, privé de toute chance de bien se qualifier. Ça veut dire éliminer...
Red Bull en moins dans la course à la qualification, à la position. Surtout,
exactement, là c'est clair. Donc ça dégage un tout petit peu le terrain, peut-être pas pour Verstappen, mais pour tous les autres.
On a vu notamment aussi Fernando Alonso qui était bien placé comme depuis le début de saison. On va en parler dans quelques instants. On va juste profiter de ce drapeau rouge lors des qualifications de la Q1 du Grand Prix de Monaco pour faire un détour en Allemagne. On suit évidemment la Bundesliga, la 34e et dernière journée, avec cette lutte pour le titre à distance entre Dortmund et le Bayern. Et pour le moment, c'est le Bayern qui conserve son titre de champion, parce que Pierre Thévenet, de son côté, Dortmund est mené 2-0 face à Mayence.
Ouais, c'est terrible pour les joueurs de Dortmund qui sont en train de tout gâcher sur cette fin de saison. Ils avaient les clés en main et là ils sont menés 2-0 après 39 minutes de jeu. L'ouverture du score d'Antje Olsen à la 15e, et c'est Onisiwo, l'attaquant, le capitaine de Mayence, qui est venu doubler la mise sur une tête qui a pris à contre-pied Kobel. Dortmund est mené 2-0 et ils vont donc devoir marquer 3 buts dans cette fin de première mi-temps et la deuxième période pour repasser devant, et repasser devant le Bayern également au classement. Scénario catastrophe pour Dortmund, et là c'est Marco Reus, le capitaine historique de Dortmund, qui vient de rentrer rentrer à la place de Karim Adeyemi blessé. On rappelle également que Sébastien Haller a raté un pénalty à la 18e qu'aurait pu remettre les deux équipes à égalité. Scénario catastrophe donc pour Dortmund, mené 2-0 après 39 minutes de jeu par Mayence.
Ouais, parce que du côté du Bayern, Johan Bredov, ça se passe bien pour le moment pour les Bavarois. On imagine aussi qu'ils doivent être au courant du résultat de Dortmund dans le même temps.
Oh oui, ils sont au courant. On a vu les signes des dirigeants qu'on fait deux avec les doigts pour signaler le deuxième but de Mayence. On a vu les supporters, que ce soit Bavarois, fêter ce but, mais aussi des supporters de Dortmund. Dortmund-Cologne, c'est pas loin, c'est à 1h15 de voiture. Il y a des supporters, des personnes qui portent le maillot du Borussia et qui ont les yeux rivés sur le téléphone et qui ont triste mine. Donc, parce que le Bayern mène 1-0 depuis la 8e minute de jeu, il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. C'est Kingsley Coman qui a marqué un but magnifique du Français, frappe enroulée, pied droit, petit filet opposé. Mais attention, hein, il y a un avantage que d'un but et on voit que Cologne, quand même, a la maîtrise du ballon, a la possession et se procure quelques opportunités. C'est pas du grand Bayern Munich, on le sait, cette saison. Et ça se voit encore pour cette dernière rencontre et un petit peu de pression, évidemment. Mais le Bayern, pour l'instant, fait le boulot. 1-0, encore 3 minutes à jouer dans cette fin de première période. 1-0 sur la pelouse de Cologne.
Ah, c'est bien, tu nous gardes le suspense pour la seconde période, parce que si pour le moment Dortmund a effectivement bien bien mal embarqué et rien n'est encore fait pour ce titre de champion, on vous le rappelle, pour le moment c'est le Bayern du coup qui décrocherait ce titre de champion, le 11e de suite quand même pour les Bavarois. On suit aussi la demi-finale de l'European League, c'est du handball avec Montpellier face à Berlin aujourd'hui, c'est la mi-temps. Arnaud Valadonf,
sur un score de parité 16 partout et pourtant Montpellier à 6 minutes de la pause menait de 3 buts 15-12. Et au final, Berlin est revenu 16 partout. Les gardiens berlinois ont fait un peu d'arrêt parce qu'ils n'en ont pas eu, notamment Deran Milosavljević, 4 sur 20 les arrêts. Et puis les gardiens montpelliérains qui avaient fait des arrêts, notamment Rémi Debonnet qui est à 6 parades à la mi-temps, et Charles Bolzinger ont été moins performants. Du coup, Berlin est revenu et donc égalité parfaite, 16 partout donc avant les 30 dernières minutes de cette demi-finale de l'European League. C'est la deuxième compétition européenne.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve tout à l'heure évidemment pour la seconde période. Un détour par les tours, les routes d'Italie avec le Giro, la 20e étape aujourd'hui, l'avant-dernière. Pierre Amiche avec ce contre-la-montre si particulier qui se conclut en montagne. Peut-être rappelle-nous aussi, du coup, à cause de ce parcours, le rythme habituel du contre-la-montre est un petit peu modifié aujourd'hui.
Ben oui, tout est nouveau sur ce Giro. Déjà, le profil 18 km 600 entre Tarvisio et Montelusari. C'est une trouvaille des organisateurs italiens. Il y a quelques semaines, la route finale n'était même pas goudronnée. C'est pour te dire, c'est une route habituelle normalement pour les chèvres. Clairement, on est à des passages à plus de 22%. La montée, c'est 7,3 km à 12% de moyenne. C'est démentiel. Quelques images pour te situer un peu le degré de difficulté. La première, c'est Michael Matthews, un sprinter habituel qui a fait le chrono à fond. Quand il est arrivé, qu'il a franchi la ligne, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est allongé au bord du malaise, l'Australien. Deuxième image, complètement folle, celle de Ben Healy, l'Irlandais, plutôt puncher, c'est l'équivalent de Julien Alaphilippe. Lui, la montée finale, il l'a fait le casque de travers sur la tête, à l'agonie, en train de zigzaguer sur la route, incapable d'avancer. Autre image, là aussi, qui symbolise la difficulté de cette rampe finale à plus de 22%, c'est Thomas Glogue, un jeune Britannique, celui de l'équipe Jumbo-Visma, qui à l'arrivée, dans une ambiance de stade de foot, a demandé aux supporters de le pousser parce que tout simplement c'était trop difficile et parce qu'il était heureux d'en terminer. Cette rampe finale, elle est démentielle. Les meilleurs vont donc s'expliquer sur cette rampe finale. Ce contre-la-montre, un exercice très particulier, puisque chacun va devoir se battre avec ses armes, celle d'un rouleur et d'un grimpeur. C'est le cas de Geraint Thomas, qui a le maillot rose, qui est le leader et qui va devoir résister à son dauphin Primoz Roglic. Le meilleur français, c'est Thibaut Pinot. Il s'élancera à 17h, le leader de la Groupama FDJ, qui va tenter d'intégrer le top 5. Et pour ça, il va devoir gagner 17 secondes sur Eddie Dunbar. Et puis t'en as parlé, les conditions un peu particulières. Les coureurs partent par sas. On vient d'assister au départ du troisième groupe, puisqu'en fait, tout simplement, d'un point de vue logistique, les voitures ne peuvent pas monter, c'est simplement les motos qui peuvent suivre les coureurs. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude d'avoir le vélo sur la galerie de la voiture, cette fois doivent l'avoir à l'épaule sur la moto en cas de pépin mécanique. Et vu que de toute façon les coureurs arrivés ne peuvent plus redescendre, il faut arrêter la course, faire descendre les 50 coureurs et faire partir les 50 suivants. C'est une organisation, personnellement j'avais jamais vu ça, donc voilà. Et un dernier mot, c'est Alberto Contador, lors de la reconnaissance, il a eu un mot pour qualifier cette montée finale, celle de 7,3 km à 12% de moyenne. Quand il est arrivé en haut au moment de la reconnaissance, essoufflé, à l'agonie quasiment. Il a juste dit « Mamma mia ». C'est pour te dire à quel point c'est difficile. Et on espère une explication. Celui qui va remporter cette étape a de grandes chances de remporter le Giro.
Eh ben, ça promet, ça promet. On va suivre tout ça évidemment avec toi tout à l'heure, avec les favoris Geraint Thomas, Primoz Roglic notamment, pour cette lutte pour le maillot rose de leader avant la dernière étape demain. En Allemagne, ça se complique très sérieusement pour Dortmund avec un nouveau but pour le Bayern, Johan Bredov.
Ouais, pour l'instant, nouveau but mis à la VAR. Hein. C'est checké. 2-0 le but de Leroy Sané qui s'est retrouvé dans la surface de réparation servie en profondeur par Gnabry. Il est venu ouvrir avec son pied gauche, poteau rentrant, mais on réclame une main au début de l'action sur la récupération de balle d'ailleurs de Leroy Sané. Il touche vraiment le ballon de la main. Reste à savoir si l'arbitre va siffler, va dire que Leroy Sané augmente la surface de son corps. En tout cas, c'est une main offensive.
Il y a main pour toi ou pas ?
Pour moi, toutes les mains offensives doivent être sifflées. En tout cas, il la touche de la main, ça c'est sûr. On va voir ce que dit l'arbitre. Et l'arbitre signale... Voilà, main, le but est refusé. Le score qui en reste à 1-0. On est dans le temps additionnel de cette première période. 1-0 pour le Bayern Munich à Cologne. Et on voit les supporters de Dortmund qui ont les yeux à moitié rivés sur le match et surtout rivés sur le téléphone pour regarder ce que fait leur équipe donc face à Mayence.
Merci beaucoup Johan, on rappelle que dans le même temps hein, du coup Dortmund est toujours mené 2-0 sur sa pelouse face à Mayence et donc pour le moment c'est le Bayern qui est champion d'Allemagne pour la 11e fois de suite, s'il vous plaît, rien que ça. On va retourner à Monaco dans quelques instants, là la première séance de qualification va reprendre tout de suite, juste le temps d'une petite pause. 16h17 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite.
RMC, Intégral Sport,
Flora Moussi.
16h21 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On est avec Jean-Luc Roy et on suit les qualifications du Grand Prix de Monaco, Grand Prix mythique de Formule 1. Évidemment, on est dans la Q1 qui a été interrompue, hein, Jean-Luc, tout à l'heure, après le crash de Sergio Pérez. Grosse erreur hein, pour le Mexicain de la Red Bull, ça va lui coûter très cher ça. Hein.
Absolument, Flora, monstrueuse erreur lors de sa première tentative pour faire un véritable chrono. Bon, il était cinquième à ce moment-là sur la feuille des temps, mais on savait que tout le monde allait améliorer, c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que cette piste de Monaco, qui n'est évidemment pas permanente, comme vous le savez, le circuit est créé pour l'occasion chaque année, c'est plus de 3 mois de travail hein, pour les services de la principauté de Monaco, pour mettre les rails, enfin bref. Et donc, ce circuit se gomme petit à petit, les monoplaces déposent des gommes, non seulement les Formule 1, mais les autres formules, la Formule 2, la Formule 3, etc. Ouais. Donc, ils gagnent en adhérence. Donc, les performances s'améliorent. Ça va être le cas également pendant ces qualifs. Donc, il faut mettre un bon temps et puis après, se mettre un petit peu à l'abri parce que, et on l'a vu à plusieurs reprises, hein, parfois, les pilotes passent si près vraiment des barrières. On a vu notamment Charles Leclerc, justement, ce matin à la piscine, qui a des problèmes à ce niveau-là. On ne mettait pas une main, mais je n'ai pas une main à plat, c'est une main comme ça. Il y avait 1 cm entre le rail et les roues. Donc, c'est vraiment du pilotage au millimètre. Et tout à l'heure, ben pour Pérez, c'était un peu trop. Ouais. Il a tout tenté sur ce premier freinage, donc à Sainte-Dévote. On arrive là à peu près à 280 km/h. Il avait une monoplace bon, qui sortait des stands. Ça peut être une circonstance atténuante, au moins visuellement. Mmh. Et en tout cas, il s'est déconcentré. Il a tapé bref, les Tech Pro et le mur de pneumatique. Et lui, c'est terminé. Et il est en train, évidemment, de descendre là dans le classement. Il est déjà voilà, 18e, mais il va terminer dernier, hein, très clairement. Donc, il s'élancera 20e et dernier sur la grille de départ. On peut s'attendre à une remontée de sa part, une stratégie, je peux déjà te l'annoncer, avec des pneus médiums pour rester en piste le plus longtemps possible. Voilà la stratégie de Pérez.
Alors c'est la bataille hein, en tête pour le moment entre les meilleurs temps. Fernando Alonso, le surprenant hein, Fernando Alonso, elle avait jusque-là, Verstappen vient juste de repasser devant. Je dis surprenant hein, pour l'Espagnol.
Oui.
Parce que son âge, parce qu'il est de retour à F1, parce qu'on ne l'attendait pas forcément non plus à ce niveau-là cette saison. Et c'est vraiment lui qui vient concurrencer aussi les Red Bull. Hein.
Écoute, pour une fois, on a souvent reproché, mais très gentiment parce qu'on l'adore, à Fernando, d'être à contre-temps du timing. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez McLaren, on rappelle ses titres chez Renault, hein, évidemment, en 2005-2006. Et d'ailleurs, sa dernière pole, on va la garder en mémoire parce qu'on ne sait jamais, c'était le Grand Prix d'Allemagne 2012. Il y a 174 Grands Prix. Donc tu me vois venir, si jamais il décrochait une pole là, dans les rues de Monaco, et sa dernière pole à lui, alors attends, je l'ai souligné tout à l'heure, voilà, dans les rues de Monaco, c'est 2007.
Ah oui,
il avait réalisé 2 pôles consécutives en 2006 et 2007. Donc, on va garder ça en mémoire pour tout à l'heure. Donc, bah oui, ça veut dire que les vieux ont encore un petit peu de répondant à 42 ans. De toute façon, il est la fraîcheur d'esprit, il l'a toujours, la volonté, il l'a toujours. On rappelle qu'il s'était un petit peu ressourcé en quittant la Formule 1 à un moment, en partant faire pas mal d'autres choses, hein, notamment Indianapolis, oui. etc. Et ça lui a fait du bien, de l'endurance Endurance également, Le Mans. Et là, il est revenu à la Formule 1 avec une envie décuplée, donc chez Alpine, qu'il a quitté. Et apparemment, vu les performances des Aston Martin cette année, on a tellement bien travaillé chez Aston qu'on est, on est peut-être même la deuxième force du plateau maintenant.
Bien sûr.
D'ailleurs, les résultats en attestent au niveau du championnat du monde.
Bien sûr.
Mais bon, c'est un super résultat de la part de Fernando, puisque voilà, je regardais les points, on est à 224 pour Red Bull et on est à 102 effectivement. Alors ça paraît loin, mais on est devant Mercedes 96 quand même.
Et oui, c'est ça.
Et puis Ferrari encore derrière.
Devant Ferrari, ouais. Exactement. La Ferrari, justement. On a un œil évidemment sur Charles Leclerc, puisqu'il est devant son public, le monégasque, troisième temps pour lui pour le moment.
Oui,
on fait quoi quand on est en Q1 comme ça? On gère, on se dit ce temps-là, ça suffit pour passer en Q2 et puis on ne prend pas de risque ou...
Écoute, je regarde le 15e temps, c'est celui de Carlos Sainz, son équipier, qui lui n'est pas sorti d'affaire, parce que 15e, ça veut dire qu'il est sur la bulle.
Oui.
C'est le premier pilote qui peut sauter si on améliore derrière, c'est-à-dire en l'occurrence Sargent. Alors, Pérez, j'en parle pour mémoire, puisqu'il est encore là, Hülkenberg ou autre. Donc, je pense qu'on peut commencer, pour Charles, on peut commencer à assurer, oui, parce que Charles, il n'est qu'à 200. Ah ben voilà, il recule au quatrième rang, mais avec 270 millièmes, ça devrait passer.
Sainz se retrouve éliminé pour le moment.
Et pour le coup, Sainz, et Hamilton maintenant aussi. Hamilton vient de perdre une place. Tu vois, c'est pas joué, alors qu'on est maintenant à deux grosses minutes du terme de cette Q1. Donc, c'est pas joué du tout, là, pour le moment. Alors, Tsunoda réalise le meilleur temps, c'est incroyable, mais c'est comme ça.
Il est premier pour le moment, devant Max Verstappen.
Alors bon, encore une fois, l'ordre chez les premiers, il n'a pas une valeur, c'est une valeur indicative, ça veut dire que ces pilotes-là sont plutôt à l'aise et que la machine est bien réglée. On va les attendre déjà en Q2 pour accéder.
C'est fait peur là un petit peu Max Verstappen
Complètement.
Là, tu parlais des centimètres qu'il y a parfois entre les roues et les barrières, alors là...
Là, c'est des millimètres qu'il y a, je crois qu'il a arraché même un petit peu de la banderole. C'est à la sortie du virage Anthony Nogues, c'est le premier qui avait organisé, qui était pilote lui-même. Ah oui, on voit qu'on est gêné, Charles Leclerc est gêné. Je me demande si c'est pas par son équipier, d'ailleurs.
Si, par Carlos Sainz,
Et donc, il en parle à la radio et on lui dit, on l'a vu. Là, c'est pareil. Dans une même équipe, on a le positionnement en permanence de toutes les voitures sur le circuit. C'est un peu inadmissible qu'on n'ait pas prévenu Sainz en lui disant, attention, t'as Charles qui arrive derrière, tu te ranges bien. Et tu le gênes pas, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors après, on le dit ou on le dit pas, mais dans une équipe, on est quand même en droit de se dire, et c'est ce que Charles a dû penser. Maintenant, Sainz, il est 17e. Ça veut dire que tel que c'est actuellement, alors qu'on est maintenant à une grosse minute du fin, il passe pas.
C'est terminé pour lui. Alors Hamilton a chaud aussi, il est 15e pour le moment. On va voir dans cette dernière minute ce qui se passe, mais surprenant quand même pour Carlos Sainz là de pas passer cette Q1.
Plus que surprenant. Alors on rappelle qu'il est sorti. Sainz, il a craché à la piscine justement en FP2. Donc évidemment, ça entame toujours un tout petit peu la confiance du pilote, même si on reset, on efface tout et on repart. Ça s'est plutôt pas trop mal passé puisque il a terminé quatrième de la troisième séance d'essais libres ce matin. Mais bon, il est peut-être pas complètement à l'aise, Carlos, pour le moment, ou il va peut-être nous sortir un tour de folie. Au moment où je dis ça, c'est toujours comme ça que ça arrive et je regarde. Non, il va se lancer maintenant. Ouais. Voilà. Mais attention, faut avoir un tour clair aussi. Parce que si tu es gêné au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut hypothéquer complètement ton résultat. Et Carlos est en difficulté, là, tout comme Lewis Hamilton.
Ouais, effectivement, toujours 15e Lewis Hamilton. Là, il reste 10 secondes. Ça veut dire que s'il s'élance maintenant Sainz, il aura le droit de terminer son tour, même si le chrono est terminé.
Oui, il est en train de le faire. Là, Sainz, je regarde dans le premier secteur où il a amélioré en 19 secondes et 27 millièmes. Pour le moment, il est en train de se hisser au-delà de Alex Albon. C'est 1:13.327. Voilà le temps qu'il faut garder en mémoire. Il faut que Carlos Sainz, pour le moment, fasse mieux pour être assuré d'accéder à la Q2. Mais c'est incroyable, une Ferrari.
Là, on a Sainz et Hamilton, les deux qui sont en danger et pour le moment qui ne passent pas en Q2. Ils sont sur la piste, les deux pilotes. Donc, on va évidemment les suivre pour voir s'ils vont arriver à se qualifier pour la deuxième séance de qualification, justement. Mais c'est dingue, effectivement, de les retrouver là tous les deux. Hamilton aussi, qui a eu des petits déboires en essai libre.
C'est pas bon pour Hamilton, je peux te dire, parce qu'il n'a pas amélioré dans le premier secteur.
Là non plus.
C'est son dernier tour. Il a amélioré un petit peu dans le deuxième, mais il est inférieur. Alors on devrait s'en sortir. Sainz, quatrième maintenant. Sainz est sorti d'affaire, donc ça devrait passer. Ça veut dire que là, sur la bulle, maintenant, on a Sargent, le pilote américain, qui représente l'équipe Williams. Hamilton, il s'est sorti. Oui, il est septième maintenant. Ça y est, c'est fait. Alors, on va attendre, bien sûr, que les derniers pilotes aient bouclé. Non, mais je crois que je peux te donner le résultat. Oui, c'est bon. Alors, on a Magnussen qui ne passe pas, on a Sargent qui ne passe pas, on a Hülkenberg, Zhou et Pérez. Pérez, bien sûr, qui termine dernier, comme on l'avait envisagé. Donc ça veut dire qu'on va retrouver pour la Q2 dans un instant Albon, Tsunoda, Verstappen, Sainz, Stroll, Russell, Hamilton, Norris, Alonso, qui a 9e temps, Leclerc, seulement 10e temps, Ocon, Piastri, Gasly, Bottas et De Vries. Voilà les 15 pilotes qu'on va retrouver pour la Q2 pour 15 minutes.
Suspense total, hein, parce qu'ils se sont fait peur. Alors, on a l'impression qu'ils maîtrisent, hein, Sainz et Hamilton, finalement, 4e, 7e temps, mais on sent qu'ils se sont fait un petit peu peur. On va suivre évidemment la Q2 dans quelques instants de ces qualifications du Grand Prix de Monaco. C'est reparti du côté du hand à demi-finale de l'European League entre Montpellier et Berlin. Arnaud Valadon, il y a cette seconde période maintenant pour faire la différence pour les Montpelliérains, mais ça va être chaud. Hein.
Ouais, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien pour les Montpelliérains qui menaient 15-12 à la 24e. Il y a désormais plus 2 pour Berlin, 20-18. Et en plus ils sont encore en infériorité numérique pendant une minute après les deux minutes de Karl Konen. Et un nouvel arrêt du gardien de Berlin, ça monte en température du côté de Deran Mizlosavljevic, et Berlin qui peut désormais prendre 3 points d'avance, 3 buts d'avance. Ça serait le plus gros écart en faveur des Allemands dans cette partie. On a repris la deuxième mi-temps depuis 5 minutes, mais c'est compliqué pour les hommes de Patrice Canaillé à Flensbourg. C'est terrain neutre, mais c'est quand même en Allemagne, au nord vers Hambourg, donc il y a forcément beaucoup de spectateurs berlinois qui sont venus, et on revoit l'arrêt impressionnant du gardien berlinois là-dessus sur Julien Boss. Bref, 2 buts de retard, ça reste encore convenable pour les Montpelliérains, 20-18 en faveur des Allemands.
Effectivement, on y croit pour les Montpelliérains pour cette finale européenne. L'événement aujourd'hui, c'est évidemment le multiplex de la 37e journée de Ligue 1, 21h pour le coup d'envoi des 10 matchs et des enjeux à tous les étages entre le titre, la course à la Ligue des Champions, à l'Europe et le maintien. On va tout vous expliquer dans quelques instants. On va juste faire un détour par le Giro, les routes d'Italie. Retrouver Pierre Amiche, c'est l'avant-dernière étape, un contre-la-montre en montagne cette fois-ci. Avec là, il y a un Français sur les routes.
Le champion français, de France. Mais oui. Le champion de France.
Il nous a ébloui sur ce Giro d'ailleurs.
Et oui, Bruno Armirail promet maillot rose sur le Giro depuis 1999, et Laurent Jalabert, le champion de France du contre-la-montre, avec son magnifique maillot bleu-blanc-rouge qui s'était lancé il y a environ 2 minutes 30 et qui va tenter de conserver une place dans le top 15. Aller chercher mieux, ça va être compliqué pour le Français. Autre Français qui devrait s'élancer à 17h, Thibaut Pinot, avec sur son dos la responsabilité de sa formation et puis l'espoir de prendre la 5e place. Et puis on attend évidemment le départ des 3 seuls concurrents qui peuvent encore remporter le Giro. Joao Almeida à 17h08, Primoz Roglic à 17h11 et Geraint Thomas à 17h14. Pour l'instant, ce chrono est dominé par le jeune espoir américain Matthew Ristitello, le prodige américain qui devance un Français, Thomas Champion, deuxième provisoire de ce contre-la-montre sur le Giro 2023.
Merci beaucoup Pierre Amiche. On attend évidemment les favoris pour voir, hein, parce qu'il y a seulement 27 secondes d'écart entre le leader Geraint Thomas et Primoz Roglic, son dauphin. Ça donnera de bonnes indications pour savoir qui va remporter ce Tour d'Italie. Je vous parlais de l'événement du jour, évidemment c'est le multiplex de la Ligue 1, 37e journée, 21h pour le coup d'envoi des 10 matchs. Et on va d'abord parler, tiens, honneur au possible futur champion de France, le PSG, 6 points d'avance sur le deuxième Lens. Autrement dit, un match nul suffit à Paris pour décrocher un historique 11e titre de champion. Et Arthur Perrault est avec nous pour nous en parler. Salut Arthur.
Salut Flora, bonjour à tous.
Le PSG, on le rappelle, en déplacement à Strasbourg ce soir avec cet objectif en tête. Il ne manque qu'un petit point à Paris pour venir conclure cette saison. Ce serait un moindre mal, on a envie de dire, mine de rien, pour le PSG.
Oui, l'expression est bien choisie après la saison vécue par le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on peut rappeler le bilan parisien avec 27 succès, 3 matchs nuls et 6 défaites qui font un peu tâche quand on repense à toutes les ambitions parisiennes au début de saison fixées notamment par l'entraîneur Christophe Galtier. Et puis on ne peut s'empêcher de reparler de toutes les affaires extrasportives qui ont touché ce club de la capitale, du char à voile, en passant plus récemment par les accusations envers Christophe Galtier. Voilà, on arrive au bout, on est à l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, tu l'as dit, ce soir va peut-être se diriger vers un nouveau titre. En plus, historique, Flore.
Bah évidemment, parce qu'on en vient à tort à banaliser un petit peu, hein, quand même, ce titre de champion, hein, de France pour le PSG. Mais il deviendrait, hein, s'il s'impose, s'il remporte ce 11e titre, et bien le club le plus titré de l'histoire quand même du championnat de France. Et ça, c'est pas anodin.
Alors oui, peut-être qu'on le banalise parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je peux te dire que en interne au Paris Saint-Germain, tout le monde en parle. Et depuis un petit moment, je repense notamment à la dernière prise de parole face aux journalistes de Nasser Al Khelaïfi, le président parisien. C'était en février dernier dans la zone mixte du Stade Vélodrome, et il avait une phrase en disant non, on va rester concentré jusqu'au bout parce que on a un 11e trophée à aller chercher et celui-là, je peux vous dire que je l'attends. Donc voilà, ça montre un peu à quel point ce 11e titre est vraiment très attendu du côté de la direction parisienne avant ce que l'on annonce comme un grand remaniement, de grands changements prévus cet été.
Ouais, justement, on va en parler, mais c'est vrai que si on banalise aussi un petit peu ce titre de champion à tort, hein, d'ailleurs, c'est aussi parce qu'il y avait d'autres ambitions, évidemment, pour le PSG cette saison. La Ligue des Champions, pour ne pas la nommer, cette désillusion avec l'élimination en 8e de finale, la Coupe de France aussi. Quel bilan tirer finalement de cette saison parisienne, Arthur ?
Ben, forcément, on en revient à la Ligue des Champions avec cette élimination face au Bayern Munich. Et c'est vrai qu'on a essayé de poser un peu la question à Christophe Galtier cette semaine en conférence de presse et hier notamment, où voilà, avec maintenant un peu plus de recul, un peu plus à froid, qu'est-ce qui manque à cette équipe parisienne pour aller plus loin en Coupe d'Europe. Et une nouvelle fois, il a avancé l'argument de cette saison qui était quand même très particulière, avec la coupure d'un mois au mois de décembre dû à la Coupe du Monde, que derrière il fallait que les joueurs soient prêts physiquement et mentalement dès la reprise et surtout dans le rush au mois de février, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est le gros point noir de cette saison, et forcément que quand on parle de bilan, on repense à cet échec une nouvelle fois en Coupe d'Europe.
On va l'écouter, hein, justement. Christophe Galtier est bien conscient des critiques sur la saison mitigée de son équipe, même s'il trouve, comme tu l'as dit Arthur, hein, quelques circonstances atténuantes.
Je comprends les remarques, les critiques. Nous avons eu des défaites à domicile où nos matchs n'ont pas été bons. Au moment où il faudra faire le bilan, il faudra bien analyser ce qui s'est passé sur la première partie de saison et après dans quel état nous avons récupéré l'effectif post-Coupe du Monde. Comme demain, il y aura 8 joueurs absents. C'est l'histoire d'une saison très particulière avec une partie de saison très compacte. Jamais aucun joueur n'a joué autant de matchs en si peu de temps. J'entends et j'accepte les remarques, les critiques, mais je regarde aussi tous les championnats européens et je m'aperçois que tout le monde a eu des passages à vide et des passages à vide importants. Ici à Paris, il y a eu un passage à vide à un moment très important de la saison, notamment avec ce 8e de finale Champions League, ce déplacement à Marseille en Coupe de France.
Ouais, effectivement, il les a bien nommés, ces points noirs dans la saison du PSG. Du coup, on prépare, tu l'as dit Arthur, déjà la saison prochaine à Paris avec évidemment le mercato en ligne de mire et déjà une signature à venir.
Je suis en
exactement.
Relation.
On parle beaucoup en ce moment dans le sens des arrivées de Manuel Ugarte, le milieu de terrain portugais du Sporting Lisbonne. 22 ans seulement. Ce que l'on sait, c'est que le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un accord avec l'international uruguayen. Surtout qu'il y a déjà eu des négociations au niveau de l'indemnité de transfert avec le Sporting. Et ce qui est important de préciser, c'est que le PSG devrait libérer la clause libératoire du joueur qui est estimée à 60 millions d'euros. Voilà un nouveau coup tenté par le Paris Saint-Germain et le conseiller Luis Campos avec donc ce très jeune joueur de 22 ans du Sporting Lisbonne.
Merci beaucoup Arthur Perrault. On va vivre un été agité, je le sens, hein, du côté du PSG. Tu vas pas chômer, toi. Tu vas pas partir en vacances.
C'est que le début, hein.
Voilà, bah oui, exactement. Il y aura des annonces de tous les côtés à Paris. On vous tiendra évidemment informé sur RMC. Merci Arthur. On te retrouve tout à l'heure, hein, 21h pour ce Strasbourg PSG et donc le potentiel match du titre pour les Parisiens. C'est reparti en qualification à Monaco. On va retrouver Jean-Luc dans quelques instants. La Q2 vient de partir.
Merci
Jean-Luc.
Madame.
Juste une courte pause et puis on revient avec toi, Jean-Luc, pour suivre en longueur cette deuxième séance de qualification. 16h38, on revient tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi.
16h41 dans Intégral Sport sur RMC. Je suis avec Jean-Luc Roy. On a un œil. On n'a pas un œil, on a les deux mêmes, Jean-Luc Rivet,
oui,
sur le Grand Prix de Monaco, les qualifications. C'est en ce moment même, on est dans la deuxième séance maintenant, c'est parti, hein, depuis 5 minutes avec Max Verstappen, sans surprise pour le moment, qui est le plus rapide. Et on a quand même un Pierre Gasly qui est plutôt pas mal dans cette deuxième séance, Jean-Luc.
Eh bien écoute, c'est absolument génial. Oui, pour le moment, il est à 181 millième du meilleur temps établi par Verstappen, qui est de 1:12.038. Ça veut dire que cette année, on n'a encore jamais roulé aussi vite. Hein. Verstappen a amélioré ses perfs à chaque une de ses sorties. Et comme je l'évoquais entre nous, là, il y avait 668 millièmes en Q1 entre Verstappen, le plus rapide déjà de la Q1, et De Vries, qui s'est qualifié 15e. 668 millièmes. Ça veut dire que là, eh bien, actuellement, le 10e est à 771 millièmes, mais on ne va pas en rester là. Moi, je pense qu'il faudra être à moins de 5 dixièmes de l'homme le plus rapide.
Ça va se corser.
Ça va se corser, ça veut dire que, a priori, hein, je m'avance un peu, mais Verstappen, ça devrait passer, Gasly évidemment à 180 millièmes, je viens de le dire, derrière, on a Alonso à 184 millièmes, ça devrait être bon, on a Ocon, quatrième, ça veut dire que c'est bien, hein, du côté des Alpines et des deux pilotes, on est à 210 millièmes, ensuite, les deux Ferrari de Sainz et Leclerc sont à 265 et 309 millièmes, allez, je me mouille, ça devrait passer, et puis derrière, bah, il va falloir commencer à faire attention du côté des McLaren, de Norris et de Piastri, du côté surtout des Mercedes d'Hamilton. Hamilton n'est que 9e, Bottas est 10e, Russell est 11e, ça passe pas pour le moment, tout comme Albon, Stroll et De Vries. Et aussi, ce qu'on peut dire sur ce tracé, Flora, c'est que la part du pilote dans le résultat, eh bien, est importante, plus importante qu'ailleurs en Formule 1. Ça veut dire que, allez, c'est toujours difficile de donner pronostics, mais je vais me mouiller. Je pense que c'est 30 à 40% du résultat qui est vraiment dû à l'engagement et au courage et au talent du pilote. Alors qu'en Formule 1, c'est loin d'être le cas sur d'autres circuits.
C'est aussi pour ça qu'on apprécie autant hein, ce Grand Prix de Monaco, parce qu'effectivement, on voit les qualités de pilote des uns et des autres. On voit que certains se font peur, là, comme Tsunoda juste ici, Jean-Luc, mais c'est vrai qu'on apprécie parce que le spectacle est de moins en moins là en Formule 1 malgré tout parfois, et c'est vrai que quand on voit un circuit comme celui-là, ça donne plus de sensations, même pour nous devant la télé.
Mais bien sûr, bah, c'est une redistribution des cartes. Sur un tracé comme celui-là, l'importance, on l'évoquait également en début d'émission, c'est l'appui aérodynamique, c'est-à-dire charger au maximum, braquer au maximum les ailerons, trouver de l'appui pour plaquer la voiture au sol, puisque la surface de la piste, qui est une, encore une fois, ce sont les rues de Monaco, des rues normales, et moins adhérentes, moins abrasives qu'elles ne l'est ailleurs, donc il faut trouver cet appui. Dans les phases de freinage, on a vu ce que ça coûtait à Pérez tout à l'heure, à Saint-Devot, et dans les phases d'accélération et de motricité également. Alors bien sûr, il y a les courbes, mais il n'y a pas de courbes extrêmement rapides sur ce tracé, à part évidemment le tunnel que l'on prend à fond absolu, à 300 km/h environ, mais ce n'est pas un vrai problème. D'ailleurs, par parenthèse, je peux t'évoquer quelques souvenirs, parce qu'à l'époque, nous journalistes, on avait le privilège de pouvoir, avec nos passes, aller dans le tunnel. Et ça, je peux te dire que vivre des séances dans le tunnel, avec le bruit à l'époque...
T'avais des bouchons d'oreilles quand même, parce que...
Même pas, moi j'en ai jamais mis parce que c'était trop le bonheur, donc c'était trop l'éclat. Et voir Ayrton Senna rentrer là-dedans.
Mais là, effectivement, tu nous vends du rêve à tous. Jean-Luc, tu nous fais rêver de ce que tu as vécu. Bon, il y a des pilotes quand même de renommée aussi. Hein. Là, on le voit, hein, Lewis Hamilton qui est encore une fois à la limite, hein, comme dans la première séance de qualification où il a validé sa place en Q2 vraiment dans le tout dernier tour, alors que le chrono était déjà passé depuis longtemps. On voit que Russell, hein, la deuxième Mercedes, aussi est en danger. C'est compliqué hein, pour les Mercedes hein, sur ce tracé-là. Hein.
Bah, de toute façon, les Mercedes auraient dû avoir toutes ces nouveautés. Ouh là là, il l'a tapé, il a léché le rail. Là c'est Esteban. Ben, des fois on va jusqu'au contact. Alors est-ce que ça suffit à endommager la monoplace? C'est pas certain. Le demi-arbre, non, ça non, devrait
c'est,
passer.
C'est, ouais,
ça devrait aller. Heureusement pour lui, il est quatrième hein, pour le moment. Esteban Ocon. Et alors que Pierre Gasly a reculé au troisième rang également. Pascal Alonso est passé deuxième derrière Verstappen. Oui. Donc on évoquait le fait effectivement que le package aérodynamique des Mercedes aurait dû arriver à Imola. On sait que le Grand Prix bien sûr a été annulé ou reporté, on ne sait pas encore. Il n'y a pas eu de communication de la part de la FIA. Est-ce qu'on va le retrouver plus tard dans la saison ou pas? J'allais dire, c'est fonction des possibilités sportives, d'organisation et puis de l'argent, hein, on va le dire, parce que la Formule 1, c'est quand même avant tout l'argent.
Il y a question d'argent en Formule 1.
Il y en a toujours. Non, on va commencer par là. Il y a trois vrais critères en Formule 1. Il y a l'argent, il y a la monnaie, il y a le pognon. Ça fait trois critères différents.
Ça donne les bases.
Allez, on redevient sérieux, on s'attaque à la piste, parce que là, effectivement, on a des images magnifiques hein, quand même, des monoplaces qui entrent dans ce tunnel dont l'éclairage a été considérablement amélioré également. Il faut savoir que les pilotes
à l'époque,
ils perdaient même le meilleur des sportifs. Quand on est en plein soleil comme ça et qu'on rentre dans le tunnel, eh bien on perd la visibilité pendant au moins une demi-seconde.
Quand on en sort d'ailleurs, non?
Pareil quand on en sort, où on est ébloui, on arrive sur le freinage, donc je répète, à plus de 300. Il y a une légère bosse également, la monoplace décolle pas vraiment mais elle se soulage et c'est juste à la retombée qu'il faut freiner, et là il y a des possibilité de blocage de roue, puisque la monoplace n'a pas retrouvé la totalité de son adhérence. Par parenthèse, c'est là aussi où on a bien amélioré le rail qui avant a causé des problèmes. On a vu malheureusement quelques accidents très graves à ce niveau-là avec quelques pilotes, notamment Karl Wendlinger, hein, qui avait été gravement blessé à la tête. C'était juste après l'accident d'Ayrton Senna. C'était la terrible saison 1994.
Ouais. Saison qu'on préférait oublier. Alors, on est dans les quatre dernières minutes de cette deuxième séance de qualification avec Hamilton qui continue de flirter hein, avec les places éliminatoires. Et c'est vrai que c'est on l'a vu, hein, le Britannique aussi en essai libre qui a eu un petit souci lors de la troisième séance. Est-ce qu'on est un petit peu marqué dans la tête dans ces cas-là, Jean-Luc, quand on s'est planté juste avant ou pas?
Indubitablement.
Là, il y a de l'expérience quand même pour Lewis Hamilton.
Oui, mais je réponds oui quand même, parce qu'on l'a vu assez atterré. D'ailleurs, il avait une attitude bizarre, comme un peu un élève à qui on va taper sur les doigts. Il avait les mains dans le dos, hein, la tête basse. Il a fait la boulette, quoi. Il a fait la boulette qu'il ne fallait pas faire. Alors, il n'a pas trop endommagé sa monoplace, à part le train avant gauche et évidemment la moustache, mais c'est plutôt dans la confiance, le capital confiance du pilote. Il doit certainement être obligé de surpiloter un petit peu pour tirer le meilleur de sa monoplace dans les rues de Monaco. Surpiloter, ça veut dire prendre des risques. Enfin, ça, c'est un euphémisme. Ils en prennent tous des risques. Regarde, là, c'est magnifique. Le passage de Leclerc, là, dans la piscine, où on l'a vu, je l'évoquais tout à l'heure, on ne mettait pas une main, mais une main verticale.
C'est proche des barrières.
Et d'ailleurs, deuxième temps qui tombe, voilà. Et la récompense, il est à 195 millième seulement de Verstappen. Ça veut donc dire que Charles a retrouvé l'efficacité qu'il voulait dans sa monoplace. Faudra compter sur lui dans la bataille pour la pole. Et immédiatement, voilà, il fait « Ah, est-ce qu'il a un problème technique ?» drapeau
il
blanc.
Il a ralenti tout de suite sur le côté Charles Leclerc.
Ouais, on voit Lewis Hamilton également. Au passage de la piscine, c'est un endroit tellement délicat, parce que c'est peut-être le seul S très rapide. Il est venu lécher le rail, littéralement lécher le rail. Et le problème, c'est que quand on touche le rail dans ces S de la piscine à l'intérieur, donc dans le léger droite, eh bien, on est délesté avant d'aborder le gauche et la chicane. Et on a vu de très nombreux accidents à cet endroit-là. C'est là que Charles était sorti, je le rappelais il y a deux ans. C'est là que Carlos Sainz est sorti en FP2. Enfin, c'est un endroit très classique. Hein, parce que c'est là qu'on fait un temps aussi, évidemment.
On est obligé, c'est ce que tu nous dis, Jean-Luc, sur ce circuit, de prendre des risques finalement si on veut arriver à faire un chrono suffisant pour rivaliser avec notamment, les Red Bull, mais non, plus que la Red Bull de Max Verstappen, puisque Sergio Perez s'est planté en Q1. Donc du coup, on est obligé de prendre des risques. Voilà, c'est ça sur ce circuit-là.
C'est l'essence même, sans vilain jeu de mots, de la Formule 1. Hein. Le risque, évidemment, le risque et le courage. Je dis toujours ce vieux mot qu'on évoque plus très souvent, mais le courage, c'est quand même très important. C'est l'engagement, c'est en avoir, comme on disait pudiquement là aussi avec Patrick Tambay. C'est les poser sur le tableau de bord et envoyer, ne plus penser à rien. Il faut déconnecter, en fait, complètement. Quand on dit « est-ce que vous avez peur ?», c'est une question stupide. On n'a pas peur. Si on fait ça, on n'a pas peur du tout. Se dit qu'on est évidemment intouchable, qu'on essaie de se mettre dans un état de grâce, comme je l'évoquais pour Ayrton Senna, pour tirer la quintessence non seulement du matériel dont on dispose, mais de son propre talent. Il faut une vista absolument incroyable. Alors là, si tu veux bien, on va faire un petit point parce qu'on est entré dans les deux dernières minutes et ça commence à devenir important. Verstappen, donc, tranquillisé avec le meilleur temps. Hein. Par parenthèse, 1:11.908, on n'a jamais roulé aussi vite pendant ce week-end. Il a Charles Leclerc, 195 millième, au deuxième rang. Alonso, tout va bien pour eux. Russell, qui a sorti un tour magnifique. Il est quatrième avec la Mercedes. Gasly et Ocon, c'est bien. Les deux Alpines sont là. On est à 340 millième exactement du plus rapide. Ensuite, Tsunoda, qui est décidément à l'aise. Et c'est une belle référence pour le japonais dans les rues de Monaco. Norris, neuvième. Piastri, dixième. Et Hamilton. Et Hamilton, seulement 11e.
Qui, pour le moment, donc, n'est pas qualifié pour la Q3.
Et non. Et tu vois, c'est ce que j'avais dit. Il est à 530 millième.
Donc trop loin.
Et donc trop loin. Ça veut dire que Piastri a 487 millième. Et le dernier qui passerait la barre de la Q2, il reste quelques secondes à Hamilton. Ça va être chaud. Hein. Et ça veut dire que le potentiel, il est quand même dans la machine, puisque Russell a signé un temps de 1:12.151. Il est à 243 millième seulement
L'autre Mercedes. Donc ça veut dire qu'il y a les moyens, effectivement, dans la voiture pour arriver à faire quelque chose aujourd'hui pour Lewis Hamilton. Il va repartir en piste, hein, forcément, l'anglais, il va vouloir faire un dernier tour avant la fin du chrono. Il reste 25 secondes au chrono. Voilà, il est en piste. Lewis Hamilton, on va le suivre évidemment ce dernier tour, hein, pour le Britannique, savoir s'il va arriver ou pas à se qualifier pour la Q2, parce que les autres, a priori, c'est fait. C'est vraiment lui, hein, le suspense de ce dernier tour.
Oui, parce qu'on a également pour le moment qui ne sont pas dans les top 10, dans les 10 plus rapides, en compagnie d'Hamilton, 11e. On a Stroll. Stroll, est-ce qu'il va améliorer? parce que Stroll, il a normalement le matériel pour le faire, hein, puisqu'on a vu qu'Alonso est troisième. Donc Stroll devrait être en mesure de pouvoir améliorer. On a Bottas, évidemment, avec l'Alfa Romeo qui est 14e. On a Albon avec la Williams qui est 15e pour le moment. Et puis on a Nyck de Vries qui vient d'améliorer. Nyck de Vries est passé devant Hamilton, il est 11e. Donc une nouvelle fois, j'évoquais le talent, l'engagement du pilote. Hamilton doit tout donner là maintenant. Et je peux te dire que dans le premier secteur, bah, il n'est pas bon. 18 secondes, 954 millièmes. Lewis Hamilton en grave difficulté pour le moment. Est-ce qu'il va améliorer dans le deuxième secteur? Oui, amélioration perso. 34 secondes, 138 millièmes. C'est meilleur. Il peut le faire, évidemment, Lewis Hamilton. Le temps à battre, c'est celui de Piastri. 1:12.395 pour rentrer dans le top 10. On va y arriver maintenant pour Lewis Hamilton qui est dans le troisième secteur, sorti du virage. Oui, ça va passer. Cinquième temps pour Lewis Hamilton. Le voilà en 1:12.156. Il vient devant Pierre Gasly et Carlos Sainz. Il a eu chaud aux plumes. Hein.
Mais comme dans la Q1 finalement, ouais, hein, il aime se faire peur Lewis Hamilton, à chaque fois il part alors que le chrono est quasiment fini, il débute son tour juste à la fin du chrono et il arrive finalement avec ce cinquième temps. Alors on voit du côté de Mercedes, on fait pas, il n'y a pas de grand sourire, hein. Bon, il y en a rarement en même temps, mais il n'y en a pas de grand sourire. Allez, la Q3 évidemment à suivre dans quelques instants. Pour le moment, Max Verstappen.
On donne juste les 5 pilotes qui restent sur le carreau si tu veux bien. Piastri donc avec la McLaren, De Vries, Albon, donc Stroll et Bottas. Voilà les 5 qu'on ne reverra pas dans la Q3.
Allez, la Q3, c'est évidemment dans quelques instants sur AMC, un tour des lives, parce qu'on suit évidemment aussi le dénouement de la saison de Bundesliga. Qui va être champion d'Allemagne? Et bien pour le moment, c'est le Bayern, Johan Bredow, qui mène face à Cologne.
Exactement, 63e minute de jeu, 1-0 pour le Bayern Munich sur la pelouse de Cologne. Le but à la 8e de Kingsley Coman, frappe enroulée, pied droit, petit filet opposé, elle est magnifique. Et elle permet pour l'instant aux Bavarois d'être sacré champion d'Allemagne. Si ça en reste là, 1-0 pour le Bayern sur la pelouse de Cologne à la 63e.
Et oui, parce que surtout dans le même temps, eh bien Dortmund est mené sur sa pelouse par Mayence, Pierre Thévenet.
Toujours aussi compliqué pour Dortmund, mené 2-0 après 61 minutes de jeu. Et les joueurs de Dortmund n'arrivent pas à réagir. On est même plus proche du 3-0 sur des contre-attaques de Mayence. 2-0 pour Mayence, il va falloir mettre 3 buts dans la dernière demi-heure pour être champion.
Et du côté du handball, c'est la demi-finale de l'European League Arnaud Valadon. Est-ce que Montpellier arrive à faire son retard face à Berlin?
Ah bah non, l'écart n'a jamais été aussi important dans cette partie. 28 pour Berlin, 22 pour le MHB. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie. C'est la demi-finale de cette C2 européenne, des Montpelliérains qui ont pris un gros coup sur la tête. Rien que de voir Berlin à hauteur à la mi-temps, 16 partout. Bref, c'est très compliqué avec ces 6 buts de retard à 13 minutes de la fin. 28-22 pour Berlin.
Et puis on va aller aussi du côté du Giro retrouver Pierre Amiche pour cette avant-dernière étape. Est-ce que les favoris se sont élancés sur ce contre-la-montre?
Eh bien c'est le départ pour Lennart Kemna, le 7e du classement général. On attend évidemment les meilleurs dans quelques instants. Vont s'élancer Arensman, Pinot, Dunbar, Caruso, Almeida, Roglic et Geraint Thomas, le porteur du maillot rose de leader de ce Giro. Ce contre-la-montre est pour l'instant dominé par la pépite américaine Matthew Ricciatello, qui devance de près de 2 minutes Thomas Champion, le français. On attend évidemment l'explication entre grands cadors. Départ pour Geraint Thomas, 17h14.
Eh bien, on sera évidemment au rendez-vous sur RMC. Il est 16h54, l'Intégral Sport revient tout de suite avec la dernière séance de qualification de ce Grand Prix de Monaco. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport, Flora Moussi.
Et 17h04 dans l'Intégral Sport sur AMC avec Jean-Luc Roy. On suit la dernière ligne droite des qualifications du Grand Prix de Monaco. C'est la Q3 qui est partie maintenant. Il reste à les 7 minutes, Jean-Luc, avec, on va dire ce qu'on pense, Jean-Luc. On a quand même une affection particulière pour Fernando Alonso, qui est bien parti pour la décrocher, cette pole. Ce serait quand même assez incroyable de le revoir au devant d'une course comme ça.
Eh bah oui, Flora, on l'avait évoqué tout à l'heure, effectivement, en disant qu'il n'avait pas signé de pole depuis le Grand Prix d'Allemagne 2012. Il y a 174 Grand Prix à Monaco. Eh bien, il fallait remonter là aussi à 2007 hein, carrément pour avoir la deuxième de ses pole positions. La première c'était en 2006, on rappelle qu'il était champion du monde en 2005 et 2006. Et bien Fernando avec l'Aston pour le moment est l'homme le plus rapide en 1 minute 11 secondes et 706 millièmes. On a évidemment jamais tourné aussi vite pour le moment. Alors je rappelle que la pole, hein, le record de la pole position c'est Hamilton en 2019 en 1:10.166. On est quand même encore relativement loin du temps absolu, mais il relègue Carlos Sainz avec la Ferrari à 29 millièmes. Rien du tout. Charles Leclerc avec l'autre Ferrari à 53 millièmes. C'est ça veut dire qu'on, On a trois pilotes, tu te rends compte, en moins de 0,05 de seconde. Hein. Ensuite, on a Russell qui vient de se hisser à l'instant au quatrième rang avec la première des Mercedes. Et puis on a Verstappen, là maintenant relégué cinquième. On a ensuite Ocon sixième, Gasly septième, Hamilton huitième, Tsunoda neuvième. Et Lando Norris n'a pas fait tant. Alors il y a une raison à cela, c'est que Lando, dans son dernier tour tout à l'heure, a légèrement léché le mur. Il a endommagé le train avant de la McLaren. Donc on est en train de bosser chez McLaren pour le remettre en piste et lui permettre d'essayer de faire une tentative en Q3. C'est pas sûr qu'on y arrive.
Il va falloir se dépêcher. Il reste 5 minutes 30 maintenant dans cette troisième séance de qualification. Max Verstappen, on ne s'alarme pas, un cinquième temps pour le moment, non. Mais on imagine qu'il va repartir en piste et qu'avec la voiture qu'il a, il y a de fortes chances qu'il arrive quand même à faire un temps très très performant pour lui, qui rafle tout aussi dans ce début de saison. Enfin, les Red Bull raflent tout finalement, Jean-Luc, depuis le début de la saison.
Pratiquement tout, puisque je rappelle quand même, il y a eu la pole de Charles.
De Charles Leclerc. Hein,
et oui, il ne faut pas l'oublier celle-là. La pole de Charles Leclerc, c'était en Azerbaïdjan, donc à Bakou. Donc c'est toujours possible. Et puis encore une fois, l'exploit personnel du pilote. Là, il suffit que Charles sorte le tour de folie, le tour idéal, le tour encore une fois qui le place carrément en lévitation au-dessus de lui-même dans les rues de Monaco, comme le faisait le grand Ayrton Senna. 6 pôles dans les rues de Monaco, quand même le recordman absolu, Ayrton Senna. On rappelle évidemment toutes ces pôles consécutives, hein, c'était absolument fabuleux. C'était alors 88, 89, 90, 91, Ayrton Senna donc en pôle, et la première c'était en 85, donc c'était évidemment une époque absolument fantastique. Et on se rappelle d'ailleurs de son erreur en course en 1988, c'était au virage du Portier, c'est-à-dire à l'entrée du tunnel, où là, il était tout seul, il avait plus de 50 secondes d'avance sur son équipier Alain Prost avec McLaren, et Alain, malin, a établi le meilleur tour en course, et comme Ayrton avait déjà la pole, il était déjà en tête, bah, il a voulu établir le meilleur tour en course, il a commis une erreur, il a tapé le virage à l'intérieur, il a tapé le rail à l'extérieur, il était tellement vexé qu'il est revenu chez lui dans son appart, il n'est pas repassé par la case stand, et McLaren ne l'a pas vu pendant un jour. Je ne veux voir personne. Il était vexé comme un pou, mais il a dit ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Justement, il fallait pas d'orgueil mal passé.
Toujours apprendre de ses erreurs. Effectivement, Max Verstappen, on en parlait. Ben voilà, pole position. Enfin, pole position. Meilleur temps pour le moment de cette
et
Q3.
Ocon à l'instant. Ocon s'empare à l'instant. Incroyable. 1:11.563. Et tu vois, Flora, ça tombe sans arrêt. Devant Verstappen, Alonso est repoussé troisième. Devant Hamilton, qui a amélioré également, qui est quatrième. Sainz, l'autre Ferrari. Et Charles Leclerc, seulement sixième. Mais c'est pas fini, hein, je peux te dire. On est à 3 minutes maintenant. Il va s'en passer d'autres là.
On va voir ce que ça va donner évidemment pour le suspense, savoir qui va réussir cette pole position. On le rappelle, hein, sur les deux derniers Grands Prix de Monaco, c'était Charles Leclerc qui avait réussi cette pole position. Est-ce qu'il va réussir la troisième de suite? C'est un peu la question aussi pour lui devant son public. On imagine qu'il y a toujours de la pression à chaque fois pour lui quand il se retrouve dans les rues de Monaco pour ce Grand Prix.
Ah oui, puis on voit à quel point c'est serré. Pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure, Charles Leclerc est sixième et il est à 206 millièmes seulement du meilleur temps établi par Esteban Ocon. Alors là, on va croiser les doigts, hein. On ose y croire pour le moment. Esteban Ocon, donc pour le moment, meilleur temps avec son Alpine. Ah, ce serait absolument génial, là on peut le dire, hein, puisque Esteban n'a jamais signé de pôle, hein. Il a remporté une victoire dans sa carrière de pilote de Formule 1, c'était au Grand Prix de Hongrie. Donc
on en profite aussi pour rappeler le coup de gueule aussi de Laurent Rossi, le patron d'Alpine, qui avait mis les choses au clair à Miami avec Gasly et Ocon. On a l'impression que peut-être ça porte ses fruits aussi, Jean-Luc.
Oui, enfin très sincèrement, je vais pas dénigrer ce qu'il a pu dire ou faire. Je pensais pas. C'est pas en terrorisant comme ça son équipe, en disant les têtes vont tomber, ça va faire mal. Et on pense notamment à Otmar Szafnauer, qui est le team manager. On a commencé à citer des noms dans le paddock de qui pourrait éventuellement le remplacer. Bon, moi, je pense pas que ce soit ça. C'est pas parce qu'on les gronde qu'ils vont vite. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Non, c'est parce que effectivement, on a joué de malchance. On le sait bien, avec notamment l'accrochage évidemment
entre
des deux pilotes en Australie. Ça, c'était l'apogée de la malchance. Après, on a commis des erreurs, bien sûr, mais dans quelle équipe n'en commet-on pas? Non, je pense que là aussi, il faut tout ensemble, hein, en Formule 1, c'est bête à dire. Il faut évidemment un pilote extrêmement performant. Il faut une monoplace qui lui permette, comme ça a l'air d'être le cas pour le moment, eh bien, de donner le meilleur de lui-même. Il faut une bonne stratégie. Il faut de la chance, parce que la chance, elle va toujours du côté des vainqueurs. Et puis, évidemment, on va terminer par le talent, parce que faire sans le talent? Non, je honnêtement, moi, je l'ai trouvé un petit peu dur, mais enfin, c'est lui le patron.
Charles Leclerc, qui est passé devant Esteban Esteban Ocon.
Et ben voilà, ça y est, oui. Charles qui a sorti l'extra tour, 1.11.471. Il repousse Esteban à 82 millièmes. Alors on est entré dans les deux dernières minutes hein, maintenant. Là, il reste un peu plus
bientôt,
d'une minute.
Ouais, bientôt la dernière minute. On en profite juste pour vous dire aussi que c'est fini du côté de Montpellier qui a perdu sa demi-finale européenne en handball. On va y aller dans quelques instants. Dortmund n'est plus mené que 2-1 face à Mayence. Le Bayern mène toujours 1-0. Oui, Jean-Luc.
Alonso reprend la pole.
Et
à l'instant,
voilà,
Alonso reprend la pole.
C'est la dernière minute.
En 1.11.449, ça veut dire que là maintenant, c'est là que ça va jouer. Hein. Les pilotes vont tous évidemment tenter une dernière fois. Ils ne sont que 10. Donc, par parenthèse, on a remis Norris en piste. Hein. Norris a signé le 9e temps devant Tsunoda. Donc maintenant, tout peut arriver là, dans cette dernière
aussi
minute.
Est en piste évidemment avec Max Verstappen.
Voilà, on attend que les pilotes soient passés, évidemment, avant le tombé. Ça va être dans quelques secondes maintenant du drapeau à damier. Ça veut dire que tous les pilotes qui auront entamé, évidemment, ce dernier tour vont pouvoir le mener à bout à terme, à condition, naturellement, qu'il n'y ait pas un crash, parce que ça peut se produire. On l'a vu très souvent à Monaco, un crash qui intervienne sur le tracé en devant, en amont, et qui doivent, évidemment, obliger le pilote à lever le pied dans ce tout dernier tour.
Oui. Bien sûr, là on est juste à la fin maintenant du chrono de cette troisième séance de qualification. Voilà, c'est terminé. Donc les pilotes en piste vont terminer leur tour en cours et notamment avec Max Verstappen. On va voir s'il va réussir à prendre cette pole position.
Oui, pour le moment, il la prend 1.11.365, Flora, à l'instant. Il la prend pour 84 millièmes devant Fernando Alonso. Ah, c'est pas terminé. Je regarde qui est dans un tour rapide encore. Pour le moment, eh bien, est-ce que les pilotes. Non, ça y est, c'est bon. On fait chez Red Bull. Eh bien, Verstappen l'a fait. Ah, il est
excellent.
Monstrueux. Ah, il est monstrueux.
C'est monstrueux hein.
Il est absolument monstrueux. Donc, c'est la 23e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça. C'est la 3e de la saison. La dernière, c'était en Australie. Et il devance Fernando Alonso, dont on va souligner le talent et la rapidité. Mais il perd cette pole.
C'est pas passé loin pour lui. Hein.
Non, 84 millièmes, exactement. Et puis ensuite, Charles Leclerc, qui va se retrouver certainement un petit peu déçu. Bah, il est à peine à 1/10 de seconde, mais il est 3e. Il partira donc en 2e ligne avec sa Ferrari. Charles Leclerc à 106 millièmes exactement. Esteban Ocon, excellent quatrième, qui a détenu la pole pendant quelques secondes. Esteban Ocon, quatrième avec l'Alpine. On trouve ensuite Carlos Sainz avec la deuxième des Ferrari, 5e temps, à 265 millièmes de Verstappen. Et puis Hamilton, qui finalement s'en est bien tiré, hein, 6e temps avec la première des Mercedes. Il devance Pierre Gasly avec l'autre Alpine, qui est 7e. Et puis Russell avec la deuxième des Mercedes. On trouve enfin Tsunoda. Et puis Norris avec la McLaren. Voilà, en tout cas, bizarrement, l'écart, en tout cas, c'est les deux derniers qui sont un tout petit peu loin, mais l'écart est plus important entre le premier et le dixième en Q3 qu'il ne l'était en Q2.
Comme quoi, ça a roulé aussi dans cette séance de qualification. Merci beaucoup, Jean-Luc. On se retrouve évidemment demain à 15h pour le départ de ce Grand Prix de Monaco. On va se régaler avec Max Verstappen, donc en pole position. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il se passe des choses un petit peu partout, hein, sur tous les terrains. J'ai envie de dire, on va tout de suite aller en Bundesliga parce que le suspense est peut-être relancé. Johan Bredov avec l'égalisation de Cologne face au Bayern.
Exactement. Peut-être que le titre de Dortmund va se jouer grâce à Cologne. Cologne qui a égalisé sur pénalty, la main de Gnabry dans la surface de réparation, le pénalty transformé par Dejan Lubicic, donc le numéro 7 de Cologne. Ça fait un partout entre les deux équipes et pour l'instant le Bayern perd le titre de champion d'Allemagne.
Et ouais, on va aller du côté de Dortmund parce que du coup on imagine qu'on doit avoir connaître le résultat hein, du Bayern dans le même temps. Pierre Thévenet, il y a encore quelques minutes pour arriver à égaliser.
Oui, je peux vous le dire qu'on le connaît, le résultat du Bayern. Le stade a rugi comme un seul homme, les supporters s'embrassent dans les tribunes en apprenant cette nouvelle. Dortmund qui est toujours mené 2-1, à la réduction de l'écart a été signé Rafael Guerrero à la 69e minute de jeu. Une deuxième mi-temps totalement à l'avantage de Dortmund. On en est à 26 tirs pour Dortmund, seulement 7 pour Cologne, mais pour l'instant peu importe, grâce à cette égalisation de Cologne face au Bayern, Dortmund est champion d'Allemagne. Il leur reste 10 minutes pour marquer de but et s'assurer définitivement cette première place. 2-1 pour Mayence face à Dortmund, 82 minutes de jeu.
Un petit but, voilà quoi ça tient, un titre de champion en Allemagne. On va vous tenir évidemment informé jusqu'au bout de ce résultat pour savoir qui sera sacré champion. En revanche, il n'y aura pas de titre européen cette saison pour Montpellier en handball, Arnaud Valadon, puisque les Montpellierains ont été battus par Berlin aujourd'hui.
Un club de Bundesliga, parce que comme ça aussi qu'on appelle le championnat allemand de handball. Une défaite 35-29, pourtant ils avaient 3 buts d'avance après 24 minutes de jouer, les Montpellierains. Ils se sont totalement effondrés, vraiment dominé par l'intensité des Berlinois, qui est une belle formation. Hein. Sur le papier, il y avait quand même plutôt du 50-50 avant le début de cette partie. Donc voilà, pas de finale pour le MHB dans cette European League, la C2. Il y aura quand même un match pour la troisième place. Déjà qu'un match pour la troisième place dans la plus des prestigieuses des compétitions européennes, c'est dur. Je te raconte pas quand il faut jouer un match pour la troisième place. Pour la C2, les têtes vont être lourdes demain, ouais, comme les jambes pour le MHB, donc battu en demi-finale.
Merci beaucoup Arnaud Valadon. On retourne sur les routes du Giro. L'avant-dernière étape aujourd'hui, le contre-la-montre en ce moment à Pierre Amiche et Thibaut Pinot qui est sur les routes.
Thibaut Pinot, mais aussi Geraint Thomas qui vient de s'élancer, le porteur du maillot rose, le leader de ce Giro. Papy fait de la résistance. 37 ans et Geraint Thomas qui s'accroche à ce potentiel, cette potentielle nouvelle victoire sur un grand tour. Lui qu'on a connu vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas, sa mission est très simple au Britannique. Il doit résister à Primoz Roglic. Il compte 26 secondes d'avance. Dans la roue de Primoz Roglic, Joao Almeida, lui, compte une minute de retard sur le leader du classement général. Thibaut Pinot, son combat est différent. Il veut intégrer le top 5 et lui est pris en sandwich. Derrière lui, un meilleur rouleur que lui, Arensman. Devant lui, peut-être un meilleur grimpeur que lui, Eddie Dunbar. Et pourtant, le tricolore va défendre ses chances et tenter d'intégrer le top 5. C'est la promesse qu'il s'est fait au début de ce Giro. Ne pas passer ce Tour d'Italie comme un anonyme. Rassurez-vous, quel que soit le résultat de ce contre-la-montre, il n'aura pas fait de la figuration sur ce Giro. Un autre Français sur la piste, Bruno Armirail, qui est en train d'en finir avec ce contre-la-montre, maillot de champion de France sur le dos. Et le Français réalise un très grand chrono. Il est dans le temps des meilleurs. Il va réaliser un chronomètre aux alentours des 47 minutes 30, faisant de lui le cinquième temps provisoire de ce Giro. On attend évidemment le passage dans les pourcentages les plus difficiles des cadors, des meilleurs. Je pense évidemment à Primoz Roglic, à Geraint Thomas, à Joao Almeida. Un seul de ces trois-là pourra remporter le Giro 2023. L'avantage évidemment pour l'instant à Geraint Thomas, le Britannique. Mais attention, Primoz Roglic est un chat échaudé. Il connaît la désillusion cruelle de perdre un grand tour sur le dernier chronomètre. Rappelez-vous ce tour 2021 perdu sur la planche des belles filles, battu par Tadej Pogacar. Le Slovène va tenter de prendre sa revanche face à Geraint Thomas. Geraint Thomas toujours en rose. Le Giro se joue aujourd'hui sur les pentes de cette 20e étape.
Suspense total et tellement bien raconté, effectivement, Pierre Amiche. On va vivre ce dénouement avec toi tout au long de la journée sur RMC. Et puis, on va parler Ligue 1 aussi dans quelques instants. On vous a parlé de la course au titre. Il y a évidemment la course pour la deuxième place. Et puis, pour le maintien, Coach Courbis sera avec nous. Restez bien sur RMC. Il est 17h17. L'Intégral Sport revient tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi.
17h21 sur RMC. Merci de nous rejoindre dans l'Intégral Sport. Ça bouge en Allemagne où le titre s'éloigne pour Dortmund avec un nouveau but pour le Bayern, Johan Bredov.
Ça fait 2-1 pour le Bayern Munich grâce à Jamal Musiala qui va récupérer ce ballon à l'entrée de la surface de réparation donnée par Serge Gnabry. Le contrôle orienté, il est magnifique. Et la frappe enroulée, pied droit, ras du poteau gauche, gardé par Martin Schwabe. Donc ça fait 2-1 pour le Bayern Munich à Cologne, le Bayern qui est pour l'instant champion d'Allemagne. Encore 4 minutes à jouer dans le temps additionnel.
On est dans le temps additionnel aussi hein, du côté de Dortmund. Pierre TNF a marqué deux fois maintenant hein, pour le Borussia pour être sacré champion hein. Ça paraît compliqué hein.
Ça paraît très compliqué, 91 minutes de jeu, il reste 4 minutes à jouer. Dortmund doit marquer deux fois, tu l'as dit, et là ce but de Bayern, c'est un véritable coup de froid sur le stade de Dortmund. Tous les supporters se sont arrêtés de chanter, les joueurs, les remplaçants se sont rassis sur le banc, les adjoints regardent un peu par terre, c'est très compliqué. Et là attention parce que Mayence va peut-être pouvoir en marquer un quatrième avec cette balle dans la surface. Non, ça passe au-dessus Dortmund. Il va leur rester 3 minutes pour marquer 2 buts. Ça va être très très compliqué d'aller chercher ce titre, toujours 2-1 pour Mayence à Dortmund.
Alors, on va vous tenir informés évidemment, bon. Ça paraît effectivement très compliqué. Coach me dit à côté, c'est mort pour Dortmund. C'est vrai que ce serait catastrophique pour eux de perdre ce titre lors de la dernière journée comme ça. Un dernier mot tiens sur les chronos du côté du Tour d'Italie, la 20e et avant-dernière étape du Giro, Pierre Amiche, où on est entre les écarts entre Geraint Thomas et Primoz Roglic.
Pour l'instant c'est Joao Almeida qui vient de franchir l'intermédiaire, le premier intermédiaire après 11 km de plat, et c'est lui qui détient le meilleur temps. Il devance pour l'instant Damiano Caruso sur le meilleur temps provisoire, Jevine, Lennart Kamna, Brandon McNulty. Et c'est une bonne nouvelle, Thibaut Pinot pour l'instant est plus rapide que Timen Arensman, son concurrent direct pour la 6e place. Geraint Thomas et Primoz Roglic sont lancés depuis maintenant un bon 12 minutes. et nous n'avons pas les écarts intermédiaires pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur temps provisoire est réalisé par Sepp Kuss qui devance Brandon McNulty, Jevan et Matthew Ricciatello. À noter la très belle cinquième place d'Aurélien Paré-Peintre qui va conforter une place dans le top 5 de ce Giro. Une très bonne nouvelle pour le leader de AG2R. Les prochains coureurs à passer à l'intermédiaire seront donc évidemment Geraint Thomas et Primoz Roglic. On attend les écarts pour pouvoir vous donner une première indication, une première température sur ce Giro 2023 et surtout sur l'identité du vainqueur potentiel.
Ouais, on reviendra te voir évidemment pour connaître ces écarts. On est toujours dans le temps additionnel en Bundesliga. C'est serré pour le moment, c'est le Bayern qui est champion d'Allemagne. On va vous tenir informés quand les matchs seront terminés. Juste vous rappeler la soirée spéciale Ligue 1 qui vous attend sur RMC avec le multiplex de la 37e journée à suivre à 21h. Le titre, la course à l'Europe, le duel pour le maintien, vous ne raterez rien. Ce soir, dès 20h, l'after présenté par Thibaut Jean-Grande avec la Dream Team Foot d'RMC. On sera sur les 10 pelouses avec tous nos commentateurs. Et puis, dès le coup de sifflet final, l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo jusqu'à 1h du matin. Et nous, on va déjà évoquer tout ça avec Coach Courbis qui est avec nous. Salut, coach.
Salut à tous.
On a parlé du titre tout à l'heure avec le PSG. Place maintenant à la lutte pour la deuxième place. Avantage Lens avec 5 points d'avance sur l'OM, 3e. Lens qui reçoit Ajaccio pendant que l'OM accueille Brest. Duel à distance à venir entre les deux et entre Flo Germain et Jean Baumel. Du coup, salut messieurs.
Salut coach, salut Flo. Bonjour à tous.
Alors, coach, je vous l'ai entendu, qui fait les live scores en même temps parce qu'il regarde aussi la Bundesliga de partout.
Il a dû mettre une petite pièce, à mon avis.
Tu crois? Ouais. De partout, est-ce que le but est validé, Pierre Thévenet, pour Dortmund?
Un retourné acrobatique, mais il était hors jeu au départ de l'action. Le but a été refusé. On a vu Edin Terzic prendre la tête entre les mains. Ça va être très compliqué. Il reste 50 secondes à jouer et Mayans mène toujours 2-1 face au Borussia Dortmund.
Ouais, surtout qu'il faudrait marquer deux fois maintenant parce que le Bayern mène de son côté 2-1 face à Cologne. Messieurs, Flo Germain, Jean Baumel, 5 victoires de rang pour les Lensois. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs et c'était face au PSG. La fin de saison, elle est canon pour les Lensois qui vont être récompensés à juste titre. Jean Baumel avec cette deuxième place.
Bah oui, ce serait forcément la belle soirée s'il y a victoire. Alors c'est vrai que Ajaccio c'est la proie, on va dire, idéale pour les 100R. Ils viennent de prendre 10 buts lors des deux dernières journées. Ce serait la 17e victoire en 19 matchs à Bollaert.
À Cologne, la victoire du Bayern Munich. On voit tous les joueurs, les dirigeants, regarder les téléphones pour voir ce que fait Dortmund à Mayence. On les voit tous réunis, les joueurs autour. Mais comme Dortmund est mené, le Bayern qui va certainement être sacré champion d'Allemagne. On voit les points serrés, le point serré de Thomas Müller. C'est lui qui tient le téléphone. La victoire de 2-1 qui pourrait permettre au Bayern Munich d'enchaîner un 11e titre consécutif en Bundesliga. Le but de Kingsley Coman, l'égalisation de Ljubicic et Musiala qui a marqué le deuxième but. Cette victoire de 2-1 du Bayern Munich à Cologne pour l'instant permet au Bayern d'être sacré champion d'Allemagne. Elle est dingue cette image, tous les joueurs réunis sur un téléphone pour voir ce qui se passe du côté de Dortmund.
Allez, du côté de Dortmund, justement, Pierre Thévenet, on s'approche de la fin du match maintenant. Hein.
Oui, on a dépassé le temps additionnel. Le but de Niklas Süle, 95e minute et 40 secondes. Le but de Niklas Süle, l'égalisation pour Dortmund. Je pense que ça va être trop tard puisqu'on a dépassé déjà de plus d'une minute le temps additionnel. Mais là, Niklas Süle qui a envoyé cette reprise de volée à droite de la surface de réparation dans le petit filet opposé. C'est touché par le gardien de Mayence, mais ça rentre de partout entre Dortmund et Mayence. À voir si l'arbitre de la rencontre va laisser une dernière action se dérouler. On est à la 96e minute de jeu. Le coup d'envoi va être redonné par les joueurs de Mayence. Tout le monde est suspendu à sa décision. Pour l'instant, ça joue. Mayence qui envoie un long ballon loin devant. L'arbitre ne dit rien. Et on va repartir de derrière avec Mats Hummels. Tout le monde est suspendu à sa décision. Le long ballon devant. Attention, on est à l'entrée de la surface de réparation. L'attaquant Dortmund qui est projeté. L'arbitre ne dit rien. C'est redégagé par Mayence. L'arbitre, pour l'instant, ne siffle toujours pas. 96 minutes et 30 secondes de jeu. Un long ballon dans la surface de réparation. C'est boxé par le portier. Est-ce qu'il y a faute? Non. Niklas Süle à l'entrée de la surface de réparation qui se fait piquer ce ballon par Mayence. Il me semble que l'arbitre aime bien cette fin de match. Ça continue. Un 3 contre 3 pour Mayence à jouer cette fois de l'autre côté du terrain. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. La mission était simple pour Dortmund. Il fallait battre cette équipe de Mayence, 9e, qui n'avait rien à jouer. Mais ils ont fait une première mi-temps catastrophique avec deux buts encaissés et un pénalty manqué par Sébastien Haller. Derrière, ils finissent à plus de 30 frappes dans ce match du Borussia Dortmund. 30 frappes pour deux buts de Guerrero et Nicolas Souleux. Ils avaient fait une deuxième partie de saison canon. Ils ont cru à ce retour. Ils avaient 9 points de retard au classement à la trêve. Finalement, ils échouent à un rien, à un point de Dortmund. Ils y ont cru très fort. Et c'est un scénario terrible pour Dortmund qui fait match nul face à Mayence, 2-2 et qui perd surtout ce titre qui va hacher le Bayern.
On va dire bravo le Bayern, mais c'est plutôt Dortmund qui perd le titre que Bayern qui le gagne.
Ouais, le Bayern champion d'Allemagne donc pour la 11e saison consécutive. Merci beaucoup messieurs, c'est la fête du côté du Bayern du coup. Johan Bredov, ils ont même j'ai l'impression qu'ils avaient le résultat même avant nous.
Ouais, alors ça je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont célébré un petit peu trop tôt.
Quand ils ont su qu'il restait une minute et qu'il fallait que Dortmund marque deux buts.
Ouais, mais ils ont célébré en fait à 2-1 et juste après il y a eu le but, le but égalisateur, et on sait jamais, ils sont allés vers les supporters. Mais voilà, c'est fait, le Bayern Munich, tu l'as dit Flora, 11e titre de champion d'Allemagne consécutif. L'histoire elle est magnifique, en plus celle de Kingsley Coman, c'est lui qui a ouvert la voie en marquant ce premier but. Kingsley Coman qui a toujours été champion national. Voilà, il n'a jamais perdu de titre national, c'est dingue, il en a même une deux la même saison, c'était quand il a signé en hiver de la Juventus au Bayern Munich, et voilà, il est encore champion une nouvelle fois avec le Bayern Munich. Il permet d'ouvrir le score 1-0, l'égalisation de Colonia but partout qui donnait le titre à Dortmund, et le but à la 88e du tout jeune Jamal Musiala, on en parle, le 12e but de la saison de la jeune pépite allemande. Et donc la joie, la scène de liesse, la communion avec les supporters, le parcage visiteur, les supporters bavarois qui sont là et qui font la fête avec leurs joueurs. Victoire du Bayern Munich 2-1, et surtout le Bayern est champion d'Allemagne.
Merci beaucoup messieurs. Il n'y a pas autant de suspense en Ligue 1 ce soir, mais quand même on va se régaler.
Ben,
il y en a plein à tous les étages.
Maintenant du côté de la France, on est au courant de ce qui s'est passé en Allemagne. Donc
on se dit pourquoi pas.
Voir,
on se dit pourquoi pas. Multiplex exceptionnel.
Ajaccio, c'est peut-être ça ressemble à Cologne ou non, on ne sait pas.
Multiplex à partir de 21h évidemment à suivre sur RMC. On est avec Jean Baumel et Flo Germain pour nous parler de cette course à la deuxième place à distance entre l'OM et Lens. Gibo, on parlait justement de cette saison complètement folle pour les Lensois qui vont retrouver la Ligue des Champions 20 ans après. C'est quand même complètement dingue cette histoire.
Alors là tu fais style, c'est fait, c'est plié.
On va dire que minimum ils sont en barrage, voilà.
Ils peuvent aussi se rattraper la semaine prochaine à Auxerre, hein. Donc il y a 5 points d'avance par rapport à l'Olympique de Marseille. Non mais on a senti cette semaine notamment de la conférence de presse que le côté où pour tout le monde c'est quasi fait, Francaise y était un peu méfiant parce que dans l'histoire du Racing Club de Lens il y a eu quand même des échecs dans les dernières journées. On se rappelle notamment le titre qui s'échappe en 2002, c'était à Lyon, et ils finissent deuxième au lieu d'être champion pour la deuxième fois. C'est le premier titre de l'OL. Il y a eu aussi l'année où ils étaient quasiment Ligue des Champions, c'était en 2007. Et ils jouent à 3 relégués, et ils perdent 3-0, ils vont en Europa League. Francis Gillot part, quitte le club parce que déçu, et c'est Giroud qui prend la suite, et on connaît la galère derrière pour les 100 ailleurs. Donc voilà, on se méfie, il y a plein de petits scénarios comme ça, même si on va être clair, c'est la proie, je vous le disais, idéale, là c'est Ajaccio. Donc normalement tout est fait pour que Lens soit...
Ajaccio, c'est pas Mayence, quoi.
Voilà. 2 buts lors des 11 derniers matchs, 5 buts encaissés la semaine dernière à domicile. Bon, voilà, on sent que c'est la fin et ils sont déjà condamnés en Ligue 2. Voilà, mais il faut être sérieux du côté lensois et surtout, il y a aussi cette 17e victoire possible en 19 matchs à Bollard, ce qui serait une stat assez incroyable, du jamais vu donc pour les 100 ailleurs. Et voilà, 20 ans après, Lens devrait retrouver officiellement la Ligue des Champions ce soir.
Oui, parce qu'il y a ça aussi, ça se passe en plus ce soir à Bollard devant le public, qui a été vraiment un des atouts majeurs aussi de Lens cette saison. Mais comme toujours, on a envie de dire, mais c'est ce qui participe aussi à cette saison historique, notamment en nombre de points aussi remportés en Ligue 1, Gibo.
Bah oui, 26e match à guichet fermé, c'est quand même c'est pas anodin. Il y a une liste d'attente de 17 000 personnes qui aimeraient s'abonner la saison prochaine, mais on en est déjà à 29 500. Le club ne veut pas augmenter la jauge. On rappelle que le Stade Bollard, c'est 38 200 places. Donc voilà, ça sera. Il y a une liste d'attente. Voilà, si tu avais un stade de 50 000, et comme on sait que normalement il y a l'Europe, ça c'est sûr. La Ligue des Champions, c'est quasiment sûr. Les abonnés sont prioritaires aussi pour acheter des places.
Tu penses qu'un jour on bouchera ces angles-là, que c'est pour moi catastrophique et scandaleux, l'architecte qui a fait ça?
Roland, j'ai posé la question récemment. Les supporters ils tiennent à ces angles non fermés. On pourrait gagner 5000 places, coach.
S'ils tiennent, il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est installé à l'anglaise. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un vaste débat. Je pense que tu peux. Alors, tribune debout, tu sais, à la Marek, de la cour, Tranin, il pense aussi faire tribune debout au bord. Donc, et avec une augmentation des capacités debout, on espère, alors pour l'instant on attend les validations bien sûr, hein, des autorités françaises mais, et même européennes, mais l'espoir de Lens, c'est de passer avec les personnes debout sur trois tribunes en bas, de passer à 43 000, de gagner 5-6 000 places. Ce qui serait pas mal pour un club comme Lens qui a, voilà, qui a perdu des places au fil du temps. Il y avait 49 000 le record en 92. Coupe du Monde, que des places assises, on passe à 41 000 en 98. Et en 2016, eh ben, il faut encore écarter un peu les sièges et on passe à 38 000. Bon, voilà, on a augmenté les stades partout, mais à Lens, on a réduit. C'est bizarre.
Oui, effectivement. Bon, a priori, on va retrouver donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Gibo, désolé, Flo, hein, généralement, on fait un peu comme si Lens était déjà assuré
de cette deuxième place.
Mais oui, mais objectivement, la sensation aussi. Le club a un peu laissé passer sa chance dans cette fin de saison.
Oui, bah, la bascule aura été sûrement le match à Lens, hein, c'est sûr et certain. Après, il y aura beaucoup de regrets aussi sur d'autres matchs, mais c'est vrai qu'à Marseille, on se prépare un peu pour être troisième, à la fois en coulisses, dans les têtes, les supporters. Je ne dis pas qu'ils ont fait le deuil de cette deuxième place. Ils vont y croire, les joueurs se forcent à y croire. C'est ce qu'on a entendu dans le discours notamment de Jonathan Clauss qu'on a vu cette semaine. Hein. Il peut se passer aussi beaucoup de choses. On ne sait jamais si Lens se faisait accrocher. Voilà, au moins ne pas avoir de regrets. Battre Brest, parce que Marseille à domicile, parfois, ça a été compliqué. Et puis, rendre hommage aussi au public. Hein. On aura le 19e en Ligue 1, 19e guichet fermé de suite pour les Olympiens au Vélodrome. Un stade plein, un superbe tifo sur les quatre tribunes pour commémorer, penser aux 30 ans de la Ligue des Champions. Évidemment, les suites de la défaite d'hier. Donc voilà, dans cette grosse ambiance, il faut au moins gagner. C'est la motivation principale de l'OM. Et après, espérer une bonne nouvelle sur RMC si jamais mon Gibo a la voix qui tremblote à 10 minutes.
Écoute,
de la fin.
Saison dernière, Lens vous a fait un joli cadeau.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour rendre la monnaie de la pièce.
Ça peut pas être le cas toutes les saisons. Il y a pas de problème. Mais on va te suivre avec une grande attention et comme dit coach, avec beaucoup de curiosité.
Et c'est vrai, Flo, t'évoquais aussi cette défaite face à Lens. 5 défaites en 8 matchs face aux équipes du top 5 de Ligue 1 actuellement. Bah oui, c'est trop pour les Marseillais face à des concurrents
directs. C'est trop, Flora. Je sais, tu me le répètes chaque week-end. Je commence à te croire. T'inquiète, y a pas de problème. Oui, non, mais c'est vrai. Les stats, on les a en tête. Hein, les 2 défaites contre le PSG, les 2 défaites contre Lens. Ça a été aussi un petit peu compliqué à Marseille face à l'AS Monaco notamment, donc contre Lille aussi, hein, qui est l'une des équipes bien classées avec la dernière défaite qui aussi a fait mal aux Marseillais. C'est trop. Après, les regrets, ils sont aussi sur des matchs. Bah, on parle d'Ajaccio. Marseille s'est incliné contre Ajaccio au Vélodrome. Point perdu également contre Montpellier, contre Strasbourg. Alors que oui, Marseille était à 10, mais Marseille menait 2-0. Donc voilà, il y a des regrets multiples. Mais honnêtement, on a un OM qui est même en interne assez combatif, qui va, si ça se confirme cette troisième place, se mettre en mode troisième tour préliminaire, peut-être barrage, et puis essayer d'accrocher ainsi cette Ligue des Champions. Donc la crainte des dirigeants, je racontais ça hier, c'était que autour de ces festivités 30 ans après la Ligue des Champions, on est à un match OM-Brest où l'OM est 4e, 5e et totalement éliminé de la course à la C1. Là, c'est pas encore le cas, ils sont 3e et effectivement, il faudra cravacher sûrement au mois d'août pour accrocher la plus belle des compétitions européennes.
Ben, c'est une saison un petit peu compliquée pour analyser. Les Lensois font un parcours, sauf à une petite période, mais sinon c'est un parcours extraordinaire. Les Lensois ont su profiter aussi.
Ben, ils ont gagné quasiment contre tous les gros coachs.
Oui, mais non, mais laisse-moi finir, parce que sinon tu vas pouvoir dire ce que je compte te dire à ma place, c'est pas un problème. Donc ce que je voulais te dire, que tu peux féliciter les Lensois, mais tu peux les féliciter aussi d'avoir profité d'une saison où le mardi, le mercredi et le jeudi, on est devant la télé. Donc, j'essaie d'insister pour que l'on comprenne que c'est un avantage. Et ensuite, en ce qui concerne l'effectif, pratiquement 15 à 16 joueurs lensois, toujours les mêmes avec un voire deux joueurs qui changent en cours de match. Donc je dis bravo à Lens, bravo aux joueurs, bravo au coach, mais comparons ce qui est comparable. Quand on voit ce qui est capable de faire ou de ne pas faire l'OM quand on joue tous les trois jours, je pense que et pour un coach et pour des joueurs, c'est un autre métier.
Ouais, effectivement, et Lens aussi, Gibo, c'est ça l'interrogation, qui va devoir, du coup, a priori, disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et il va falloir aussi être capable d'enchaîner ces matchs-là aussi importants.
Bah, de toute façon, faut pas que les supporters s'attendent à ce que Lens joue le podium la saison prochaine. Hein. Je pense qu'un parcours en Ligue des Champions et une 7e, 8e place en championnat, ce serait déjà pas mal hein, pour une équipe qui, rappelons-le, n'a que le 10e budget. Alors certes, la Ligue des Champions va apporter de l'argent, mais c'est vrai que l'accumulation des matchs et la fatigue de la Ligue des Champions, parce que c'est énergivore, ça risque de jouer. Après, moi,
c'est ambitieux tout ça.
Ouais, c'est ambitieux, mais il faut souligner une chose, c'est qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue et on va passer un championnat de 34 de 38 à 34 journées de championnat. Voilà, est-ce qu'il faut encore des... Enfin, oui, il faut se renforcer, mais est-ce qu'il faut... voilà, il y a quand même beaucoup moins de matchs. Il y aura beaucoup moins de matchs la saison prochaine.
Complètement. Ce qui n'est pas le cas, sauf miracle, pour l'Olympique de Marseille, c'est cette place de troisième. Premièrement, on a le souci de se dire que bon, allez, Monaco, sur les deux dernières saisons, ils ont été éliminés parce qu'il y a deux tours, le tour préliminaire et les barrages. Mais ça peut tout simplement te bousiller aussi le mois d'août et ton championnat.
En Ligue 1, bah oui, bien sûr. Effectivement, ça, c'est le suspense total pour la rentrée, messieurs. Flo Germain, Jean Baumel, on vous retrouve ce soir, évidemment, messieurs, pour nous.
Avec
commenter
plaisir.
Ces matchs
tout à l'heure.
De l'OM. Salut, et de Lens. Ce sera 21h à suivre dans le multiplex, évidemment, sur RMC, sur les routes du Giro. Suspense total aussi, Pierre Amiche, parce que Guérin Thomas, le maillot rose, est en train de craquer.
Il a déjà concédé 8 secondes, Flora, et les 4 kilomètres les plus difficiles de cette 20e étape du Giro se présentent à lui. Devant, Primoz Roglic est en train d'imprimer un rythme très important avec un plus petit développement que Guérin Thomas. On en a l'habitude, Thomas emmène un braquet énorme. Il défie la piste dans une ambiance de stade de foot. Il est poussé par tous les tifosi. Mais il faut dire que la moitié des spectateurs sont slovènes. On est à quelques kilomètres de la frontière et c'est forcément Primoz Roglic qui est porté par ses supporters. Côté français, Thibaut Pinot est en train de réaliser un très bon chrono. Il signe le deuxième temps intermédiaire. Il compte près d'une minute 15 d'avance sur celui qui était son concurrent direct pour la cinquième place, Eddie Dunbar. Et il peut même rêver, pourquoi pas, de revenir sur la quatrième place de Damiano Caruso. Ce serait un tour de force formidable pour le tricolore. Thibaut Pinot, deuxième temps intermédiaire. Il reste encore un peu plus de 10 minutes d'ascension pour le tricolore.
Merci beaucoup Pierre Amiche. On suivra évidemment le résultat de Thibaut Pinot, le résultat définitif aussi entre Guérin Thomas et Primoz Roglic, parce que c'est sans doute le Tour d'Italie qui se joue maintenant. 17h41 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite avec Coach Courbis. La Ligue 1 évidemment ce soir, on va vous parler de la course au maintien qui s'annonce passionnante entre Auxerre et Nantes. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi.
17h44 sur RMC, la dernière ligne droite de l'Intégral Sport avant de débuter la soirée Ligue 1 avec Benoît Boutron. Coach Courbis est avec moi. On va parler Ligue 1 justement dans quelques instants avec la course au maintien, parce que ça aussi, ça s'annonce passionnant. Juste le temps de vous rappeler les infos principales de l'après-midi. Le Bayern Munich est à nouveau champion d'Allemagne pour la 11e fois consécutive. Victoire des Bavarois de 2-1 sur la pelouse de Cologne. Et s'ils sont champions, c'est parce que dans le même temps, Dortmund a été tenu en échec sur sa pelouse de partout par Mayence malgré un but à la 95e minute. Le Bayern donc conserve son titre de champion. Et puis en Formule 1, le Grand Prix de Monaco, c'est Max Verstappen une nouvelle fois qui partira en pole position devant Fernando Alonso et Charles Leclerc, le local de l'étape. Voilà, on arrive aussi bientôt sur la fin de l'étape du côté du Giro en Italie, la 20e et avant-dernière étape avec ce contre-la-montre en montagne. On va peut-être aller voir Pierre Amiche tout de suite parce que Thibaut Pinot est arrivé, il va arriver, il en est où ?
Il vient d'en finir, Flora, et il a le meilleur temps provisoire. Thibaut Pinot, 5 lettres couleur panache, qui pour l'instant prend la tête provisoire de l'étape la plus difficile de son dernier Giro. Il voulait faire des adieux dans un anonymat, au contraire, pas dans l'anonymat, il voulait faire des adieux dans la lumière et dans la gloire. Il va peut-être y arriver, car Thibaut Pinot signe le meilleur temps provisoire sur cette 20e étape. Évidemment, les 4 meilleurs du classement général restent à passer, à savoir Dunbar, Caruso, Almeida, Roglic, Thomas. Mais Thibaut Pinot est en train de dominer cette étape et en train de conquérir la 5e place de ce classement général. Lui qui était déjà assuré d'être le meilleur grimpeur de ce tour. Côté des favoris, côté des meilleurs, eh bien Primoz Roglic est en train de grappiller quelques secondes sur Guérin Thomas. Mais pour l'instant, le maillot rose est toujours solidement accroché sur les épaules de celui qui serait le plus vieux vainqueur du Giro après Magny et 1956. Une performance majuscule pour Guérin Thomas. Thibaut Pinot toujours en tête de ce classement provisoire.
Ça, c'est la bonne nouvelle pour le moment. Mais on va évidemment attendre que les derniers coureurs arrivent, notamment les deux favoris de ce Giro. Giro, oui, je dis bien, le Tour d'Italie. La Ligue 1.
Giro.
Voilà, c'est, si je décompose, c'est mieux. Coach, on va parler Ligue 1 avec toi, évidemment, le multiplex à suivre dès 21h, la 37e et avant-dernière journée. Antenne spéciale dès 18h sur RMC. Vous aurez l'after à 20h pour les compos et toutes les dernières infos. Et puis, évidemment, le débrief avec Gilbert Bribois, Lionel Charbonnier et Daniel Riolo jusqu'à 1h du matin. Mais si vous nous suivez en ce moment, rassurez-vous, vous allez avoir aussi tous les enjeux malgré tout. On a parlé du titre et de la deuxième place. Place maintenant à la course au maintien et tout va se jouer entre Auxerre et Nantes. Les Auxerrois en déplacement à Toulouse. Aurélien Tiercin va suivre tout ça pour RMC. Salut Aurélien.
Salut Flora, bonjour à tous.
Salut Aurélien.
Et puis Nantes se déplace à Lille où on va retrouver David Filippo. Salut David.
Salut Flora, salut coach, salut à tout le monde.
Salut David.
Au classement, avantage à Auxerre, messieurs, un point d'avance sur les Nantais. Et aujourd'hui, avantage aussi aux Auxerrois, Aurélien, puisque Toulouse ne joue plus rien, alors que Lille, qui défie Nantes, eh bien, vise une place en Europe.
Oui, exactement. Avantage à Auxerre, c'est quand même vite dit, parce que les trois derniers Toulouse-Auxerre, c'est victoire de Toulouse. Il y a même eu un 5-0 lors du match aller cette saison. Donc avantage psychologique aux Toulousains, mais effectivement depuis la victoire en Coupe de France à la fin du mois d'avril, eh bien le TFC n'avance plus. Il y a 3-0 à 0 consécutifs notamment, et une petite défaite 1-0 contre Lens. Donc ça veut aussi dire, si vous comptez bien, que Toulouse n'a pas marqué un seul but depuis la victoire en Coupe de France. L'avenir en Europa League est assuré, donc on pourrait se dire Auxerre va y aller, va gagner tranquillement. Mais Auxerre, bah, c'est que 34 points, c'est aussi 3 défaites et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui avance aussi au ralenti, dont le meilleur buteur est Nuno Da Costa avec 5 buts simplement. Donc il y aura quand même une équation offensive à résoudre pour les hommes de Christophe Pélissier. La victoire à Toulouse ce soir est loin, loin d'être acquise.
Ah, coach, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ben, tout simplement que bon, on va pas rajouter la même chose, mais on est obligé de le constater et on le constatera jusqu'à la saison prochaine quand ça n'existera plus et que cette Coupe de France va tout simplement fausser la fin du championnat. Là maintenant, les Auxerrois vont essayer d'en profiter, tant mieux pour eux. Les Nantais ont pris des coups de marteau sur la tête, sur le plan footballistique, oui, psychologique et même tout simplement sur le plan nerveux. On ne reconnaît plus les joueurs de Nantes. Bon, on va voir ce soir. Toulouse, évidemment, tout en restant le plus sérieux possible, ça n'a plus rien à voir avec le Toulouse qu'on a vu, qui se crée beaucoup d'occasions, qui pratiquement ne passait jamais un match sans marquer un but. Ben là, ils en marquent presque plus du tout. Et nous avons aussi un concours de circonstances qui fait que on pouvait espérer du côté de Nantes que Lens gagne à Auxerre à la 38e journée. Mais ça risque de ne pas être le cas, parce que Lens, c'est dès ce soir qu'ils vont pouvoir faire la fête, s'embrasser et aller à Auxerre pour terminer la saison.
Et on a oublié de dire un truc, coach, c'est que Auxerre peut assurer son maintien ce soir. Oui. Ça, c'est hyper important. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais en cas de victoire ce soir et de défaite de Nantes à Lille, Auxerre restera en Ligue 1 la saison prochaine.
Absolument.
Et ça aussi, il faut le prendre en compte. On va continuer, hein. On va entendre notamment David sur Nantes. Juste un détour par le Giro, Pierre Amiche, parce qu'il vient sans doute de se jouer à l'instant même, hein, ce Tour d'Italie.
Et oui, Primoz Roglic, le Slovène, est maudit dans la montée finale. Il a tout simplement déraillé. Et comme les mécaniciens étaient un petit peu loin, il n'y a pas de voiture, eh bien on a mis plus de 20 secondes à le dépanner. Le Giro vient certainement de s'envoler pour le Slovène, parce que derrière il avait fait le plus dur. Geraint Thomas était à 13 secondes, il restait les 2 km les plus étouffants de ce Giro, et malheureusement le Slovène va devoir se contenter d'une deuxième place dauphin de Geraint Thomas. Il est maudit coach, on l'avait vu largement leader sur le Tour de France 2020, battu par Tadej Pogacar, le prodige qui lui avait fait la nique sur la planche des belles filles. Et bien de nouveau Primoz Roglic va devoir s'incliner, et de nouveau s'incliner sur la dernière étape qui compte dans un grand tour. Il va falloir digérer tout ça pour le Slovène, mais c'est terrible. Et Geraint Thomas va désormais pouvoir gérer, ou en tout cas essayer de le faire, parce que même s'il est quasiment assuré de conserver son maillot de leader, et bien la pente reste cruelle, 22%. Il va falloir faire le travail désormais pour le Gallois pour remporter le premier Giro de sa carrière.
Alors, on attend les arrivées indéfinitives pour connaître justement les écarts entre les deux favoris de ce Giro. On est avec Aurélien Tiercin et David Filippo pour parler de cette lutte au maintien qui nous attend ce soir à 21h lors du multiplex de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. On a parlé d'Auxerre, on va parler de Nantes maintenant, David, parce que l'alerte rouge, elle est évidemment côté nantais. Un monument de Ligue 1 est en péril, hein, et qui pourrait connaître la troisième descente de son histoire. Ce serait catastrophique. Hein.
Ah, ça serait une catastrophe. Effectivement, il y a déjà eu deux descentes. C'était en 2007, la première. J'étais déjà suiveur du club. Mais en 2007, on le sentait venir. Hein. C'était Dassault qui était le propriétaire du FC Nantes. Valdemar Quitta n'était pas encore arrivé. Il est arrivé quelques mois après. Puis il y a eu une relégation en 2009. Et là encore, on l'avait senti venir. Hein. Cette équipe de Nantes, elle avait toujours été dans les deux, trois derniers en Ligue 1 tout au long du championnat. Et là, Valdemar Quitta était président du FC Nantes. Alors là, cette saison, personne ne l'a vu venir. Cette relégation qui sincèrement se profile pour les Canaries, parce que il y a eu la Coupe de France. Évidemment, le FC Nantes est retourné au Stade de France, comme vous le savez, une deuxième année d'affilée. Ils avaient gagné l'année dernière, là ils ont perdu 5-1 en finale. Il y a eu cette épopée entre guillemets européenne jusqu'en 16e de finale de l'Europa League, et cette défaite, ce match nul à Turin quand même. C'était le 16 février dernier, les Canaries vont faire match nul, et c'est vrai que là, à ce moment-là, je crois que les Canaries, ils ont entre 8 et 10 points d'avance sur la zone rouge en championnat. Et d'ailleurs, le 12 février, c'est la dernière victoire de Nantes en championnat. C'était à la Beaujoire face à Lorient 1-0. Nantes, ce soir-là, avait 10 points d'avance. On était le 12 février. Et là, maintenant, Nantes a très sincèrement le profil d'une équipe reléguée. Ça, c'est clair. Et tout le monde le sait.
Pour notre football français, donc on ne va pas manquer de respect pour les autres clubs. Mais voir Nantes, Bordeaux et Saint-Étienne, peut-être, parce que Bordeaux n'y est pas encore, en deuxième division, disons que ça fait drôle. Hein.
Ouais, une descente difficile à envisager à Nantes. Et certains joueurs ne veulent même pas y penser. Incroyable, mais vrai. Écoutez le coach nantais, Pierre Aristouy.
J'ai la sensation que certains sont dans le déni de se dire qu'ils jouent le maintien. Alors qu'il y a deux mois, il jouait contre la Juve, alors qu'il y a peu de temps, il jouait la finale de la Coupe de France. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la meilleure façon de s'engager dans quelque chose, c'est déjà d'accepter la situation dans laquelle on est.
C'est complètement fou d'entendre ce discours quand même, David. Comment on le vit justement du côté de Nantes?
C'est
comme ça,
ouais,
c'est ce que tu ressens, ce déni total aussi dans la ville, dans le club, autour des supporters, les suiveurs, même vous, les journalistes que vous êtes auprès des Nantais.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, personne ne l'a senti venir. Alors ça y est, là, quand même, depuis 10-15 jours. En fait, quand Pierre Aristouy a pris l'équipe, il y a eu un vrai... Je ne sais pas s'il y a eu un électrochoc, mais il s'est passé quelque chose. Je pense que la direction a fait le bon choix. Il fallait se débarrasser d'Antoine Camboire, qui a fait un boulot monstrueux pendant plus de deux ans et trois mois à Nantes. Mais il fallait changer les choses. Ça ne fonctionnait plus avec Camboire. Quand Aristouy est arrivé, je me souviens, la semaine après, aux entraînements, il y a plus de rythme. Tout le monde nous disait ça, hein, les proches des joueurs. Même les joueurs disaient qu'il y avait plus d'intensité dans les séances. Il y a eu ce 0-0 à Toulouse, qui n'était pas extraordinaire, mais on s'est dit, voilà, un point, ça met fin un petit peu à la spirale négative. Et puis après, il y a eu ce match, la semaine dernière, il y a une semaine pile, cette défaite 3-0 à la Beaujoire. Et alors là, ça a été l'effondrement total, même au club. Là, les gens ont vraiment réalisé que le FC Nantes allait sans doute retrouver la Ligue 2
Il y avait déjà eu la défaite contre Strasbourg qui a fait mal, parce que c'était encore Antoine Camboire qui était
à la tête du club.
Une défaite avec un rival. Ce qu'on peut appeler, on appelle toujours les matchs à 6 points.
En confrontation directe.
Là, c'était une défaite qui déjà avait fait beaucoup mal, pas seulement sur le plan psychologique, sur le plan mathématique.
Et on la retrouvera ce soir.
Alors, on va voir ce soir, Pierre Aristouy pourrait faire des choix forts. Il est question que Ludovic Blas, qui est, bon, on va pas se mentir, le leader technique de cette équipe de Nantes, soit sur le banc ce soir. On le saura. Je sais qu'il y avait une certaine hésitation du côté de Pierre Aristouy et son staff, parce que Ludovic Blas, on sait que sur une action, il est capable de faire la différence. Mais en tout cas, il fait partie de ces joueurs. Et il y en a d'autres. On pense à Fabien Santonze. Il y a des joueurs qui ont peur, très clairement, qui jouent avec les pétoches, qui tremblent quand ils ont le ballon. Et c'est vrai qu'on va voir ce soir si Pierre Aristouy fait des choix forts en sortant notamment Ludovic Blas.
Lille-Nantes à 21h.
Ben c'est quand même surprenant.
Ouais. Et judicieux ou pas, on verra. Ouais.
Sortir Blas et se sauver, je serai le premier à applaudir.
Coup de maître. Lille-Nantes, 21h à suivre évidemment dans le multiplex de cette 37e journée. Et puis on suivra aussi Auxerre en déplacement du côté de Toulouse. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. La fin du Giro, c'est à venir dans quelques instants. Il y a d'ailleurs Primoz Roglic qui est arrivé, hein, Pierre Amiche. Hein.
Oui, dans une ambiance de corrida, Primoz Roglic vient de franchir la ligne et malgré son changement de vélo, il devance tous ses adversaires de près de 45 secondes. Geraint Thomas a toujours le maillot rose sur les épaules, mais il doit maintenant accélérer, appuyer sur les pédales, sur des pentes à 22% pour être certain de remporter ce Giro 2023.
Eh bien, on aura la réponse évidemment de l'arrivée de Geraint Thomas.
On ne sait pas à peu près...
Geraint Thomas n'a pas tardé à arriver, donc on va voir
avec le
une vingtaine de secondes, c'est terrible. Franchement, Roland, c'est tellement cruel. Vous imaginez 3 semaines d'efforts et où ils ont souffert comme jamais sous la pluie et il va perdre le Giro pour peut-être 7 ou 8 secondes.
Bon.
C'est dur, évidemment. Ça nous fait penser aussi à Dortmund qui a perdu le titre sur sa pelouse après ce nul de partout.
C'est pas la journée de son jaune.
Exactement, c'est pas la journée des jaunes aujourd'hui. Pierre, je te laisse en compagnie de Benoît Boutron, coach aussi d'ailleurs. Tiens, je te laisse en très bonne compagnie.
Je le récupère, le coup.
Tu le récupères, c'est salut bon, ça va aller pour cette soirée de Ligue 1 commence maintenant avec toi.
Je vais essayer de faire les demi-temps.
Roland, on lance la fusée Ligue 1 sur RMC, évidemment, la 37e et avant-dernière journée du championnat. On va parler de la course au titre. On va parler évidemment de la lutte pour les places qualificatif pour la Ligue des Champions. On sera donc à Strasbourg pour le match du PSG. On sera à Lens pour ce match des Lensois, également très important face à Ajaccio. On parlera de l'Olympique de Marseille qui va vivre une soirée paradoxale entre célébration du titre de 93 et donc évidemment la peur de voir la Ligue des Champions s'échapper. Et puis cette info qui vient de tomber là d'ailleurs, je te ferai réagir Roland, mais d'après les médias allemands, Hasan Salihamidžić et Oliver Kahn, respectivement directeur sportif et président du Bayern, seraient démis de leurs fonctions malgré le titre du Bayern. Voilà, c'est complètement dingue ce qu'on a vécu en Bundesliga, mais c'est Kicker notamment qui annonce ça. Donc on pourra réagir dans un instant, évidemment. Et on vous attend au 32-16. Le 32-16 est ouvert si vous voulez venir parler de votre club de cœur. On est là jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.